séance du conseil municipal du 5 février 2018 à 18h30. Nous avons fait ici. Attendons-nous d'autres personnes? Non. Bien, donc je salue les élus, je salue la foule, je salue la presse. Et nous allons donc commencer cette séance du conseil municipal. Je demanderai à Mme Trévilly d'assurer le secrétariat. Nous avons un certain nombre de pouvoirs. Madame Chantal Blanc à M. Dominique Rouillère, Madame Emmanuelle Valérian à Mme Colette Leclerc, Madame Morgane Chapeau à Madame Béatrice Roux, Madame Carole Perrin à M. Gilles Bernard et Madame Blandine Rasselet à moi-même. Dans un premier temps, approbation du compte rendu de la séance du 14 décembre 2017 qui a été affichée, transmis par voie électronique, le 22 décembre 2017. Y a-t-il des remarques particulières? Je le mets donc au voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération. Numéro 1, abrogation de la délibération 2017-133-R du 23 octobre 2017, qui s'intitulait Projet hôtelier cyclotouristique. Avis du conseil municipal et désignation du comité de pilotage. J'informe l'Assemblée délibérante que la délibération numéro 113-R du 23 octobre 2017 et relative au projet Holbeck Ventoux Provence, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le 6 novembre 2017, a fait l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Nîmes. Il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération contestée, vu le code général des collectivités territoriales, où il s'est exposé, je vous propose donc d'abroger cette délibération. Je le soumets donc aux voix.
Je souhaitais intervenir.
Une demande de parole, M. Constant. Oui.
Donc, moi, c'est avec une certaine satisfaction que je vais voter cette abrogation. Je n'en douterai pas. Car depuis le début, là où j'émettais des doutes et des interrogations, toi, tu as traité de manière un petit peu dédaigneuse cette affaire. Tu as écrit dans la presse que j'avais écrit des faux, que c'était infondé, que c'était grotesque. Lors du dernier conseil municipal, avec pas mal de suffisance, tu m'as dit tu n'as qu'à faire le nécessaire auprès des autorités, qu'on n'allait pas y passer la nuit. J'ai voulu retrouver l'enregistrement audio de ce conseil que j'avais écouté mi-janvier. Et là, surprise, la partie donc qui relate cette affaire a été enlevée. On attaque le 14 décembre à 18h32 et on passe à la délibération numéro 1. Alors, bon, je trouve ça un petit peu dommage. Les bugs informatiques, ça aurait même bien ciblé si c'est un bug informatique. Parce que comme par hasard, ça commence et ça finit là où il faut. Moi, je pense que sur ce coup-là, moi, personnellement, je me sens un peu pris comme un imbécile. Mais bon, ça, encore, peu importe. Il n'y a pas que moi, il y a des administrés aussi. Et je pense que, en considération, ils peuvent avoir des doutes aussi. Voilà. Donc, ce jour, quand on revote cette abrogation, mais en fait, je suis satisfait. Que tu sois renvoyé dans tes 22 par rapport à ça, chose que j'ai toujours dit depuis le début, sur la pointe des pieds, je dois bien le dire, mais je suis assez satisfait. Et par contre, je m'engage, moi, à faire le nécessaire dans la presse pour qu'on puisse effectivement rétablir les choses, que des propos faux, grotesques et infondés, c'était pas vrai. Voilà. C'est ma seule intervention que je souhaitais faire par rapport à ça, par rapport à cette affaire. Et maintenant, le mieux, c'est de retirer et passer à la suite. Voilà.
Très bien, ma réponse sera très courte. Donc effectivement, messieurs Rossetti et Alain Constant, donc, nous ont fait un courrier du 5 novembre 2017. Donc, demandant, alors c'est là, effectivement, où j'ai eu tout de même un certain décalage de parole par rapport à ce que vous m'avez écrit, à ce que vous avez affirmé et ce que vous avez porté ensuite sur le corps donc, de l'attaque de cette décision. Là aussi, comme vous le dites, donc ce serait assez long à expliquer. On n'a pas de temps à perdre là-dessus. Pour ma part, il m'appartient de sécuriser toutes les délibérations. Et donc, c'est de cette manière que j'abroge celle-ci. Mais comme vous l'avez vu dans l'ordre du jour, donc, on va y revenir. Et simplement, moi, la chose que je vais vous dire, c'est qu'en ayant cédé donc, à une demande insistante d'un de vos représentants de scinder une délibération en plusieurs parties, eh bien, on se trouve attaqué ensuite par le même groupe. Alors, moi, que
pas
vous,
du tout. C'est
que
faux.
Vous,
c'est
vous
faux.
Permettez.
C'est faux.
Vous permettez. Ouais, alors, moi, que vous cherchiez à légitimer le fait que vous soyez opposé à un projet, pourquoi pas. De la même manière, je ne ferai pas plus de commentaires. Hein, bon, je vois qu'il y a du monde, effectivement. Il peut être tentant, 2 ans avant les élections, d'essayer de se mettre en avant, de se prétendre les chevaliers blancs et autres, mais ça, c'est de votre ressort. Alors donc, je ne ferai pas plus de commentaires, et simplement, je vais mettre cette délibération d'abrogation aux voix, et en espérant que ça fonctionne, parce que bien sûr, on prête, bien sûr, une fois, on rajoute du contenu à une délibération en en mettant une troisième, alors que les documents préparatoires étaient absolument ce qu'ont été soumis. Et ensuite, on trouve c'est que tout. C'est le système informatique qui ne fonctionne pas.
Alors, écoutez, il y a le début, voilà, 18h32, et puis d'un coup, ça coupe. Au début, on arrive à la première délibération.
Ah, oui.
C'est assez curieux, quand même.
Ben, bon. De toute façon, il y avait des gens qui étaient présents dans la salle. Tout le monde a entendu la discussion.
Voilà. Tout à fait.
Tout le monde a entendu la discussion qu'il y a eu avant le conseil municipal, avant le premier point. Oui. Donc j'invite tous ces gens-là à aller sur le site internet de la commune. Mais allez-y aujourd'hui, parce que demain, ça aura peut-être encore changé. Aujourd'hui, c'est sûr que ça n'y est pas.
Monsieur Bernard, je vous remercie de votre correction.
Non, mais...
Bien, je le soumets donc au bras. Y a-t-il, concernant l'abrogation de cette délibération, y a-t-il des oppositions à ce que l'on abroge? Y a-t-il des abstentions? Donc, je considère qu'il y a unanimité. On est d'accord là-dessus?
Oui.
Je vous remercie. Délibération numéro 2. Projet hôtelier cyclotouristique, avis du conseil municipal et désignation du comité de pilotage. Bon, je suis un peu désolé, comme lors de la séance précédente, je vais vous imposer une relecture de quelque chose qui a déjà été lu. La seule différence se fera certainement peut-être au moment des votes, mais sachez que c'est une délibération qui sera prise entièrement et d'un bloc. Alors donc je rappelle le projet de création d'un complexe touristique comprenant un hôtel haut de gamme et un équipement sportif de type vélodrome, quartier du Moustier, route du Mont Ventoux à Bédouin. Si ce projet dénommé All Bike Ventoux Provence est au stade de l'étude, il importe à la municipalité par volonté et souci de transparence et de concertation d'informer les conseillers municipaux et la population sur les enjeux et démarches engagées. Ce projet capitalise les atouts du village et ce qui fait indéniablement aujourd'hui son attractivité, à savoir le Ventoux, le tourisme et la pratique sportive. Il vise un positionnement haut de gamme qui n'entre pas en concurrence avec les hébergeurs présents sur la commune, limité, une centaine de chambres, et fonctionnant toute l'année. Il propose une infrastructure de grande qualité, permettant l'entraînement des sportifs, l'équipement en matériel performant et les services associés. À l'heure du portage foncier et dans la perspective d'élaboration du business plan qui lui sera communiqué, il est demandé au conseil municipal de donner mandat au maire et au comité de pilotage spécialement constitué pour ce projet afin de poursuivre les négociations avec les futurs investisseurs. Des points de vigilance sont d'ores et déjà évoqués et concerne l'aménagement des voies d'accès et le financement des équipements publics, la modification du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, de l'Arconta Ventoux, avec l'inscription d'une unité touristique nouvelle, du PLU, plan local d'urbanisme, zonage et règlement sous la forme d'une déclaration de projet, en concertation avec les personnes publiques associées, l'adhésion des professionnels exerçant sur le territoire, l'intégration à la vie du village. Le comité de pilotage serait composé d'élus et de personnes qualifiées extra-municipales. Son rôle consisterait dans l'évaluation et le suivi du projet, atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Impliqué dans les différentes phases, il serait chargé du respect des engagements, de la veille juridique et de la défense des intérêts de la commune et de ses habitants. À cet effet, Monsieur le maire, membre de droit, propose de reconduire les 6 conseillers de la majorité, Mesdames Blanc, Massendès et Trévilly, et Messieurs Fort, Rouillet et Dell'Innocenti, ainsi que Madame Malher dans le groupe minoritaire, et propose à 2 autres élus de cette même liste de constituer un groupe de travail. Il précise que des référents en fonction des thèmes abordés pourront y participer. Considérant l'intérêt économique pour la commune de Bédouin de donner un avis favorable de principe à la poursuite des échanges avec les investisseurs, après avoir recueilli éventuellement les 2 candidatures d'élus de la minorité, il est demandé au conseil municipal de reconduire les élus membres du comité de pilotage comme suit, donc monsieur le maire de Bédouin, du Crénard, M. Denis Faure, M. Dominique Rouillère, M. Michel Dell'Innocenti, Mme Jeannine Trévilly, Mme Chantal Blanc, Mme Michel Massendès, Mme Christiane Malher. Il est proposé aussi de donner un avis favorable à la poursuite des échanges avec le porteur du projet, les investisseurs, les autorités administratives, les collectivités et généralement tous les acteurs concernés sur le principe d'installation d'un complexe touristique, hôtels et équipements sportifs haut de gamme sur le territoire de la commune, ainsi que de donner mandat à Monsieur le maire et au comité de pilotage pour approfondir et encadrer l'étude du projet Holbach Ventoux-Provence afin que le conseil municipal puisse rendre un avis définitif. Donc, en voilà le corps. Donc, la question que je pose, y a-t-il 2 membres dans la minorité municipale qui souhaitent intégrer ce groupe de travail ?
Moi, je souhaite éventuellement siéger à ce comité de pilotage, à une condition que je vais te poser, c'est tout simplement que, par rapport à ce projet, une consultation par référendum de la population, chose que j'ai dit depuis le départ, et à ce comité, moi, je veux bien y siéger, y participer, je veux bien voter la suite de ce projet et de ce comité. Par contre, ma condition, c'est celle-là, voilà. Tout simplement, comme depuis le départ. Donc, si quelque part tu accèdes à cette sagesse démocratique, je siégerai à ce comité. Voilà.
Bien, écoutez, M. Costin, le référendum, vous en demandez lors de chaque événement, non, pratiquement, quel qu'il soit. Non, c'est pas un projet de parc aussi, vous
en avez. Ah non, mais ça, c'est pas moi qui ai demandé. Ah, oui. C'est toi.
Donc,
c'est
toi. C'est toi. Je ne modifie ni ne scinde donc les propos de cette délibération. Donc, c'est très clair.
C'était une question.
De la même manière, vous pourriez encore la semaine prochaine aller argumenter que nous aurions pu éventuellement et qu'il faudrait recommencer. Donc le jeu du chat et de la souris a suffisamment joué. Je ne modifie rien. Êtes-vous partant, oui ou non ?
Moi, non. S'il n'y a pas de modification, non.
Alors là, non. C'est quand même fort de café. Il y a déjà eu 3 réunions de ce comité de pilotage, d'accord ? Il y a eu 3 réunions qui se tiennent, entre parenthèses, sous le gardiennage de la gendarmerie. C'est la première fois, j'ai 58 ans que j'habite à Védré, c'est la première fois que je vois des réunions qui se tiennent avec la gendarmerie en bas de la mairie. Ça me paraît bizarre, et pour la sérénité d'un village, c'est quand même pas l'idéal. Donc ces 3 réunions, nous sommes élus quand même. Malgré tout, il y a 43% de la population qui ont voté pour nous. Nous n'avons eu aucun compte rendu. Et aujourd'hui, tu nous demandes de faire partie de ce comité de pilotage. Ça, c'est quand même extraordinaire.
Tout à fait.
Il y a un comité de pilotage où nous sommes censés rendre un avis, ensuite voter pour ou contre. Nous sommes élus et nous n'avons aucun compte rendu du comité de pilotage. Alors rassure-toi, il y en a qui nous ont fait passer les comptes rendus. Voilà. Ça, c'est, voilà. Mais c'est certainement pas toi.
C'est pas
la mairie.
On n'en doute de rien. Mais
non, mais je veux dire, c'est quand même extraordinaire.
Vous pouvez difficilement quand même ne pas vouloir participer. C'est certain, c'est du travail. Et puis ne prenons pas de risques. Au cas où on prendrait une position qui fâche et qui serait gênante, donc on n'y serait pas. Donc, moi, j'entérine le fait que vous ne voulez pas y participer. Donc je reste sur le corps de ma délibération et donc je le soumets au
vote. Non, mais il faut quand même que tout le monde soit
au courant. Et cela étant tout de même, quand vous me dites qu'un comité de pilotage a travaillé, oui, il a travaillé donc sous la juridiction, sous le régime de la délibération précédente. Parce que je sens dans votre attaque le fait qu'un comité fantôme a pu travailler de façon incidente, cachée.
C'était un comité de suivi, ça redevient un comité de pilotage.
On se connaît.
Oui, mais justement, pour ça, on se connaît, comme tu dis.
Moi j'aurais deux questions. Moi j'ai pas eu le compte-rendu de ces comités de pilotage. Donc, comme tu dis dans ta délibération pour informer la population et le conseiller municipal, est-ce qu'on peut avoir un peu une synthèse de ces trois réunions qui a eu lieu ou pas aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est une question juste d'information, une demande d'information sur qu'est-ce qui s'est passé dans ces comités de pilotage.
Alors, une synthèse,
ça, c'est ma première question.
Ce serait un peu trop long, là aussi, M. Campos, je suis quand même surpris de votre demande. Vous aviez été sollicité aussi pour participer aux travaux. Je trouve un peu paradoxal que ceux qui ne sont pas intéressés fassent travailler les autres et s'arrogent ensuite le droit donc, d'être informé, les renseignements viendront en temps utile quand ils seront suffisants.
C'est nos communications quand même bizarre.
Vous nous l'avez déjà dit ça,
oui, mais je confirme et ça continue
très bien.
Donc on n'aura pas les informations. Ma deuxième question, c'est sur la composition là, du comité de pilotage. Je suppose que les élus qui sont là sont d'accord pour en faire partie, mais il y a deux absents, me semble-t-il. Donc est-ce qu'il y a des éléments les absents qui sont là sont faits acte de candidature quelque part. Je ne sais pas s'il faut faire acte de candidature ou si on est désigné.
Voilà, c'est une...
Non, c'est pas du tout ça. C'est juste pour voir... ils sont toujours d'accord pour continuer à participer.
En fait, c'est à leur demande. Ils ont demandé à continuer à siéger.
Tout à fait.
Et par rapport au comité, il n'y a pas de disposition particulière à prendre par rapport au vote. C'est pas comme les commissions où il faut voter à bulletin secret ou un truc comme ça.
Non, mais les comités, pour le moment, essaient de...
Oui, non, mais dans la composition, je veux dire.
Dans la composition.
Dans le vote et tout, il n'y a pas de...
Je suis ravi qu'il y ait autant de monde, et je peux le dire, puis après je m'arrêterai là. J'avais proposé lors de la conférence de presse tenue, donc je vous passe la date, mais donc il y a quelques mois, j'avais demandé à une personne qui se présentait à ce moment-là, donc au nom des inquiets, on va dire, donc de participer. La réponse que j'ai reçue, c'est que de toute façon, je ne veux pas participer, nous ne voulons pas participer, nous serons contre. Donc à un moment donné...
Non, mais c'est pas par rapport à ces personnes-là que je dis ça.
Je dis simplement, les élus donc, se sont manifestés pour être à la commission.
Tout à fait.
Donc, ils se sont manifestés clairement, ils sont venus te voir pour te dire on doit être à la commission, s'il y a de manière compagnie.
Okay.
Et après, moi, je disais simplement, je sais que par rapport aux commissions municipales, comme ça se fait habituellement, on vote à bulletin secret. Donc ma question, c'était de dire, est-ce qu'il est nécessaire ou pas? C'est tout. Voilà, après...
Vote à bulletin secret. Non. Une commission, de toute façon, vous
avez... Pour une commission, c'est obligatoire. Je posais la question pour le comité.
Pour une commission, il y a nul...
Municipal.
Une commission municipale, c'est quelque chose de, qui peut être recomposé, mais si, vous le savez, ça, qui peut être recomposé, et donc qui a justement une voie consultative. L'avantage, donc, d'un comité, c'est justement que l'on peut explorer différents points en se référant à des personnes qualifiées, je ne sais pas, en comptabilité, en urbanisme ou que sais-je encore, et donc on a un résultat de travaux, et quand ce résultat de travaux il y sera, bien c'est là où justement on fera une mise à plat, et donc on verra ce qui, s'il est nécessaire à la fois de continuer, parce que moi je veux bien qu'on nous charge de tous les maux, le premier travail à faire, c'est quand même d'examiner les choses et ensuite, une fois qu'on a tous les éléments, d'en demander, parce qu'ils n'y sont pas, et là on est tout à fait dans cette situation. C'est ce que je vous ai dit depuis le premier jour, l'opportunité, c'est surtout d'examiner tous les problèmes, que ce soit cela ou que ça ne soit pas.
Non, mais ça, c'est pas... Moi, c'était simplement sur les modalités du vote. Voilà, c'est tout.
C'est petit.
Pour couper court, moi je demande à ce qu'on vote un bulletin secret. Donc ça n'y aura pas de soucis.
faut un tiers des membres, non, pour faire la demande.
Non.
Non.
Et le seul, oui, c'est monsieur le maire qui peut décider, je crois. S'il faut tirer les membres.
Y a-t-il des personnes qui souhaitent donc que l'on monte à bulletin secret?
Moi, oui.
Ah oui, il faut qu'il y ait un tiers. Allez, qu'il y ait un tiers, et puis voilà.
Mais voilà, on met un tiers. Il faut un tiers, on a un tiers.
Bon, ben, très bien. Madame Gessler.
Avec quoi le pied là-dessus?
Non, mais c'est quoi le vote?
C'est quoi le vote? Oui, non,
c'est pas le mien.
C'est oui ou non?
Oui ou non?
La question sera la suivante. Pour l'adoption, donc en l'état de la délibération de poursuite de.
Ah, mais le bulletin était prêt.
D'avis favorable et de mandat.
Alors deux.
Oui, il faut les couper en deux. Madame Prévilly, je peux ça nous l'accompagner, je crois que c'est vous le plus jeune.
Regardez ce qu'elle s'est mis dans la malopa.
Ouais, c'est à 45
votants.
Hein.
Ouais.
Donc on est. On est bien d'accord, le oui c'est pour l'approbation de la délibération de l'État.
Bon, je te prends.
Ouais, ça.
C'est pas complet. Non, je ne suis pas
complet. Généralement, vous voyez,
on
n'a
pas besoin. Regardez,
prenons
trois. Ouais, c'était
merci.
J'ai des verres.
C'est pas, je crois qu'ils sont plutôt là-bas.
C'est le compte des bibliothèques.
Allez. Thank you.
22.
C'est bon puisque madame Malère est absente.
C'est le choix du numéro.
Il y a 5 noms. Un blanc. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 oui.
Je vous remercie. Donc 16 oui, 5 non et 1 blanc. Délibération suivante. Budget principal 2018, ouverture anticipée de crédit. Denis Fort, s'il vous plaît.
Alors, l'exercice est annuel qui permet d'engager des dépenses en attendant le vote du budget. La collectivité sera appelée à voter le prochain budget courant du mois de mars. Dans le cadre de la continuité du service public, l'exécutif peut, entre le 1er janvier 2018 et le vote du budget, engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement sous réserve d'une autorisation préalable de l'organe délibérant, dans la limite du quart des crédits ouverts en investissement au budget de l'exercice précédent, afin de permettre de réaliser les travaux et de procéder à des acquisitions dont la mise en œuvre ne peut être différée. Il est proposé l'ouverture anticipée des crédits comme suit. Nous avions en 2017 des dépenses d'équipement de 3 456 810 euros, déduction faite des restes à réaliser 2016 pour 595 989,91 euros, et donc un plafond de 25%, 864 202,50 euros. Nous ouvrons des crédits par anticipation à hauteur de 811 056 euros. Alors, je vais vous faire la liste des dépenses que nous allons engager avant le vote du budget, bah, éventuellement. Donc 30 000 euros pour les travaux divers bâtiments de la commune, 85 000 euros pour la restauration de l'église, 5 000 pour le moustier, 2 000 pour l'acquisition de mobilier, logiciel 1000, informatique 5 000, matériel téléphonique 2 000, outillage et matériel 50 000, aménagement voirie, dont réseau divers VRD 52 600 plus 30 000 plus 22 600. 22 600, c'est l'extension vidéoprotection. Aménagement de la place des frères Provanne, 30 000 euros. Études préalables, 1 000 euros. Acquisition foncière, 300 000 euros. Réhabilitation petit patrimoine, 2 000. Salle des sports, 10 000. Accessibilité des ERP, 36 000. Aménagement parking, route du Mont Ventoux, 199 456. Dont 99 456 d'acquisition, 100 000 de travaux. Vu l'article L1612.1 du CGCT, vu les crédits inscrits au budget principal 2017, considérant la nécessité de procéder à l'ouverture de crédit, considérant les opérations concernées qui pourraient donner lieu à des engagements et à des mandatements, il est demandé au Conseil d'autoriser l'ouverture de crédits anticipés sur le budget principal à hauteur de 811 056 euros en avance de vote du budget primitif. Et de dire que les crédits d'investissement facilités seront inscrits au budget primitif 2018.
Très bien, le commentaire. Donc c'est une opération assez classique qui permet justement de continuer à faire des aménagements, notamment des investissements. Et bien sûr, on n'est pas sur le fonctionnement. Voilà. Bien, des questions particulières ?
Moi j'aurais, oui, deux ou trois éclaircissements. Hein. D'ailleurs, je ne sais plus, puisque tout à l'heure j'étais surpris, vous voyez. Certes, je ne fais plus partie de ta majorité, mais bon, pour moi, on peut rester quand même sur un relationnel de ce type-là, et moi, je continuerai à te dire tu.
Ça me rajeunit.
Sur le moustier, voilà, c'est quoi comme type de travaux qui va être engagé, etc.
C'est pour installer des sanitaires pour les enfants, voilà. Pour le.
C'est en prévision de l'ouverture pour le centre de loisirs de cet été.
Exactement.
C'est juste des précisions de ce type-là. Aménagement des frères Provanne,
des études.
30 000 euros.
C'est des études.
que les études pour le moment.
Oui, les études, ben oui, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures, de réseaux enterrés, etc. Donc il faut connaître tout ça, l'objet de l'étude.
Et qui va démarrer, là, incessamment sous peu, sans l'attente du vote du budget.
L'étude.
Absolument.
Oui.
Les acquisitions foncières, 300 000 euros.
Alors, il s'agit du...
Donc, il y a des prévisions, là. Si on engage déjà des ouvertures de crédit, c'est qu'il y a des achats en prévision.
Je te réponds, le garage Michel est en vente. Nous ne savons pas si la commune va préempter, mais à tout hasard, on se réserve le droit de préempter.
C'est pour réserver le droit de préempter sur le garage.
Voilà.
Parce qu'il est en vente.
Exactement.
D'accord.
Donc, on n'a pas pris de décision à cet égard.
Oui, il n'y a pas de projet sur ce bâtiment-là, sur
mais
cet espace-là.
Mais on se donne le temps de...
Si tu décides de préempter, de toute façon, c'est dans tes pouvoirs. Ça ne passe pas au conseil municipal.
Ça ne me dérange pas qu'on en parle.
Donc, ni parler, mais le vote. En parler et voter, c'est deux choses différentes.
Effectivement, ça pourrait être régi de cette manière, mais je préfère avoir des avis concordants. Mais c'est une opération dont on a été averti vendredi précédent. Ça. Ben, j'avoue que 300 000 euros, c'est une somme donc assez conséquente. C'est un pléonasme.
Donc pour le moment, il n'y a pas de...
D'accord, il n'y a pas d'engagement.
Non, il n'y a pas d'engagement.
En prévision,
au cas où. Voilà.
Est-ce qu'il y a un projet mairie derrière?
Un projet, non. On en avait déjà parlé. Il y a des possibilités. Mais c'est, voilà. Mais c'est à discuter et à rediscuter. Hein.
Oui. Alors, je vais vous dire ce qui me gêne particulièrement, là. C'est que... Sur cet emplacement, donc il y a un bâtiment. Et si c'est un bâtiment qui doit être ouvert au public et accueillir, donc fatalement, mais du public, des véhicules ou autre, ça risque de nous impacter de façon extrêmement gênante quant au parking qui est en face, qui pourrait par là même devenir inutilisable pour d'autres utilisations municipales. Ça ne signifie pas qu'on va acheter le garage Michel pour protéger le parking. Mais néanmoins, c'est un souci réel. Suivant la nature du projet, on peut se retrouver. Avec, bon, bien que nous ayons des parkings un peu plus loin, même fait, la nature humaine, on en fait tous partie, on préfère se garer directement à proximité du bâtiment plutôt que de marcher un petit peu. Donc on a aussi ce paramètre à prendre en compte, mais ben c'est pas, je le répète, c'est pas l'objet principal. Vous avez des idées, des projets particuliers.
L'aménagement du parking et routes du Ventoux. Parking et routes du Ventoux.
Oui, c'est quoi la question?
Le dernier, acquisition et travaux.
Acquisition,
je suppose que c'est pour élargir la route.
Alors là on a un début d'ébauche, Dominique.
Oui, il y a un début d'ébauche sur le parking, l'arrêt des cars, modification, création d'un rond-point, création de trottoirs, etc.
Le parking n'avait pas été déjà traité?
Non, parce que si tu veux, tu as le parking privé pour les logements, il n'y a pas le parking public. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si ça va également impacter le parking qui se trouve devant les écoles. Il y a tout ça à étudier. Donc on est en négociation avec le département, si tu veux, pour un partage du travail. Eux resteraient sur les routes uniquement, ils ne seraient pas déclassés, mais conservera la route, et la commune, forcément, ferait tous les aménagements accessoires. Donc là aussi, il y a étude. Après, il y a là. Et ça, il faudrait que ça soit terminé le plus tôt possible. Donc il ne faut pas qu'on prenne de retard sur le début des études.
Il y a deux options, soit des travaux avant la saison, soit des travaux après la saison. Mais comme il y a un grand nombre de partenaires qui veulent essayer de se coordonner, puisque là aussi on a tout ce qui est réseau. Donc il y a examen des réseaux qui viennent avec l'alimentation en eau de Bédouin, tu le sais, aussi bien le collectif que les les individuels, on a bien sûr tous les réseaux secs, donc qui sont à revoir et pour lesquels on a besoin d'un état des lieux. On a besoin, le département, à une époque, le département remettait très volontiers, c'est ce que nous avions fait quand on a fait l'aménagement route de Malocène et route de Crillon, on remettait volontiers la voirie en payant un goudronnage et donc en donnant une somme pour l'aménagement. Nous, on l'avait consacré à faire les ronds-points pour sécuriser les accès. Maintenant, il semblerait qu'il soit dans la politique inverse. C'est-à-dire qu'ils préfèrent, eux, maintenant, faire les travaux et repayer éventuellement à la mairie le complément que les communes peuvent demander pour des raisons diverses. Donc, on est un peu... Ou alors remettre les travaux à l'automne, ce qui semble plus vraisemblable et plus logique, parce qu'on reste quand même là, à la merci de... On a eu... quelques semaines de beau temps, on peut avoir le même phénomène inverse et ce serait dommage d'arriver au 14 juillet dans un chantier en cours. Voilà pourquoi on fait une avance, mais sachez que de toute façon, fin mars, on revoit le budget. Quoi. Et d'ici fin mars.
D'ici fin mars, on vote. Ce que je ne comprends pas, c'est la somme. Et quand on dit qu'on n'a pas l'étude, on n'a pas avancé dessus, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et on vote une somme de 200 000.
Oui, mais c'est pas suffisamment affiné.
Mais je sais même pourquoi on vote cette vote. Je veux dire, à ce moment-là, on laisse faire l'étude et on vote au moment du budget. Quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Quoi.
Il peut y avoir certains travaux qui doivent partir en préalable.
D'ici le vote du budget.
C'est dans pas longtemps. Et oui, c'est dans pas
longtemps. On n'a pas
d'études,
on
n'a rien. Si, il y a déjà des plans.
On a une étude avancée, la première ébauche
que nous avons n'est pas satisfaisante. On a eu ce matin un rendez-vous avec une personne concernée, donc on ne voudrait pas perdre 15 jours, ne serait-ce que 15 jours de plus, si quelque chose devait se faire. Mais ça aussi, on a un certain nombre de projets qui doivent faire l'objet d'un examen, d'un balayage.
Et sur le matériel et outillage technique, 50 000, c'est quoi?
Alors là, c'est du remplacement de matériel pour les services techniques, essentiellement.
Il y a plusieurs types de matériel, mais il faut remplacer un véhicule. Si il y avait un véhicule qui tombe en panne, c'est cohérent. Si tu l'as pas ouvert, tu peux pas l'acheter jusqu'au 1er avril.
Ah ben.
Ouais, mais ça c'est valable toute l'année, hein. Non. Pas attendre aujourd'hui.
Non. Une fois que le budget est voté, tu as la somme affectée.
Ça veut dire qu'on n'a plus de. On a plus. En fait, du 1er janvier au fin mars, on ne peut plus rien passer.
Si on ne vote pas les engagements,
si tu ne votes pas, c'est pas ça.
Un investissement. Sinon, tu peux payer. Par exemple, fonctionnement, on demande qu'on peut payer les salaires des agents.
S'il faut remplacer une voiture.
D'accord, c'est un peu idiot.
Bien, d'autres questions?
On vote globalement, non?
Oui, alors je vous informe aussi que là on a voulu aller au plus clair. Et on a rencontré encore ce matin, vous allez me dire c'est une journée faste aujourd'hui. On a rencontré notre nouvelle agent comptable qui est Madame Giuliani de Carpentras, puisque vous savez que notre trésorerie a fermé. Et donc le vote se fera par chapitre. C'est-à-dire que là, on a pris soin, parce que bon, après qu'on a un peu avancé, qu'on a un peu affiné, de faire tout ce détail, mais en fait avec trois chiffres, le chiffre de tous ceux qui commencent par 20, tous ceux qui commencent par 21 et par 23, avec trois chiffres, on peut faire cet engagement. Et le plus on s'approche de la vérité. Il n'y en a pas d'autre, vous pouvez regarder, il n'y a que trois chapitres. Là. 20, 21, 23. Et d'ailleurs, sur ces recommandations vives, le budget sera présenté par chapitre aussi. Alors c'est vrai que ceux qui ont de vécu municipal peuvent s'en étonner, puisqu'à une époque on nous demandait pratiquement au centime près, que ce soit centime de francs ou centime d'euros, d'identifier les projets, ce qui parfois nous posait problème parce qu'on était... Il nous en restait un peu d'un côté, un peu de l'autre, et maintenant, c'est une nouvelle norme, on va dire, que de faire du cobalt. Voilà, et donc, effectivement, ça viendra la suite. Bien, y a-t-il des... Je le soumets donc au vote. Y a-t-il des oppositions sur ces amendements?
Ouais. Que je comprenne bien, donc on vote globalement, là? Non, par chapitre, oui. Toi, tu m'as dit.
Oui,
c'est
le
même chapitre.
Oui. C'est tout sur le même chapitre.
Vous voterez le budget par chapitre.
Ça tient. Ah oui, ça tient, c'est ça. C'est que la délibération globale. Non, mais ça, je vous le dis, ne soyez pas étonnés au moment du budget. Bon, on aura bien entendu le détail, mais ça se vote par chapitre. Enfin, ça a toujours été le cas, mais ça devient impératif. Itératif. Bien, donc je le soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Bien, donc ça... Donc je cite messieurs Bernard, Constant, Rossetti et madame Perrin. C'est ça? 4. Bien. Je vous remercie pour ce qui est du reste. Ensuite, budget annexe, piscine, camping, ouverture anticipée de crédit. Et bien, comme on a trois budgets, on va le faire en trois fois. Madame Leclerc, s'il vous plaît.
Mais c'est le même exercice, c'est une ouverture de crédit en fonction d'un pourcentage des crédits ouverts en investissement. Mais là, c'est une petite somme qui est que de 4 500 euros. La collectivité sera appelée à voter le prochain budget primitif courant du mois de mars 2018. Dans le cadre de la continuité du service public, l'exécutif peut, entre le 1er janvier 2018 et le vote du budget, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sous réserve d'une autorisation préalable de l'organe délibérant. Dans la limite du tiers des crédits ouverts en investissement au budget de l'exercice précédent, conformément à l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de permettre les travaux et de procéder à des acquisitions dont la mise en œuvre ne peut être différée, il est proposé l'ouverture anticipée des crédits comme suit. Crédit ouvert en investissement en 2017, 54 400, plafond de 25%, ce qui donne 13 600 euros. Crédit ouvert par anticipation, 4 500. On a mis dans ces crédits donc 2 000 euros qu'on n'a pas identifiés. Et une réfection de sanitaire. En fait, si vous voulez un petit peu plus d'explications, je peux vous dire que dans les crédits non identifiés, dans les 2000 euros, on sait déjà qu'on aura besoin d'un petit investissement puisque on est en train de mettre des portes, on avait prévu au budget de l'année dernière, des ouvertures magnétiques. Donc, il y a une petite installation électrique à faire en plus. Et on a mis 2000 euros pour ces quelques frais supplémentaires dont on ne connaît pas la somme exacte. Vu le code 16-12 du Code général des collectivités territoriales, vu les crédits inscrits au budget annexe camping-piscine 2017, ainsi que les différentes décisions modificatives votées au cours de l'exercice, considérant la nécessité de procéder à l'ouverture de crédits permettant la réalisation d'investissements avant le vote du budget 2018, considérant les opérations concernées qui pourraient donner lieu à des engagements et à des mandatements préalablement au vote du budget, et sans tenir compte des restes à réaliser repris sur l'exercice 2018, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser l'ouverture de crédits anticipés sur le budget annexe Camping Piscine Tennis 2018 à hauteur de 4 500 euros avant le vote du budget primitif, de dire que les crédits d'investissement précités seront inscrits au budget 2018.
Très bien. Donc, des questions particulières là-dessus. Donc, je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Donc, la forêt, on le fera d'un seul coup. Budget principal, versement anticipé des subventions, notamment associatives, et aide à l'installation des médecins. Vincent, tu peux.
Oui, ben c'est une délibération régulière de début d'année pour les versements anticipés de subventions aux associations qui ont des subventions un peu plus importantes pour éviter une gêne dans leur gestion mensuelle. La collectivité sera appelée à voter le prochain budget primitif courant du mois de mars 2018. Depuis plusieurs années, la commune de Bédouin décide de procéder au paiement mensualisé de certaines subventions au profit d'associations dont l'action et les charges annualisées le nécessitent. Aussi, dans l'attente de l'adoption du budget 2018 et des subventions octroyées aux organismes de droit privé, pour permettre à la Maison des Jeunes de la Culture, les MJC, et au Ventoux Sud Football Club Bédouin-Mazan d'assurer une continuité dans leur fonctionnement, Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à procéder au versement de subventions mensualisées au profit des associations comme suit. 1 000 euros mensuels pour les MJC, soit 3 000 pour les trois premiers trimestres de l'année 2018, 500 mensuels pour la maison de service au public, MSAP, gérée par la MJC, soit 1 500 pour les trois premiers trimestres de l'année 2018, 1 000...
Pour le premier trimestre.
1 000 euros mensuels pour Ventoux Sud Football Club Maison Mazan, soit 3 000 pour les trois premiers mois de l'année 2018. Par ailleurs, Monsieur le maire rappelle que la commune s'est engagée à verser une aide mensuelle de 415 euros pour l'installation des médecins, plafonnée à 10 000 euros. Il convient donc de maintenir pour les docteurs Gubert et Casigas la subvention mensuelle de 415 euros à minima pour le premier trimestre 2018. Ces versements seront éventuellement réactualisés par le budget primitif 2018. Le conseil municipal sera appelé à approuver les versements anticipés de subventions au profit de la MJC pour un montant total de 4 500 euros, le Ventoux Sud Football Club pour un montant de 3 000 euros, le docteur Jean-Louis Gubert à hauteur de 1 245 euros, le docteur Anthony Casigas à hauteur de 1 245 euros. Vu le code général des collectivités territoriales, il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement anticipé de subventions au profit de la MJC pour un montant de 4 500 et au profit du Ventoux Sud Football Club Bédouin-Mazan pour 3 000 euros. De verser l'aide mensuelle à l'installation des docteurs Gubert et Casigas, de dire que les crédits seront inscrits au budget principal 2018 à l'article 65-74.
Très bien. Des explications particulières demandées là-dessus. Sachez simplement que nous sommes en négociation avec la ville de Mazan, puisqu'il y a eu une fusion des deux clubs. Et donc le résultat de ces négociations pourrait aboutir à une modification de la subvention globale, ce qui semble assez cohérent. Enfin, en l'état, donc, on adopte ceci pour le moment. Et je le soumets au voix.
La maison de la maison de santé, elle avance, puisqu'il y a aussi la question des docteurs, la maison de santé.
Oui, oui, la maison de santé, donc on est sur le point là de conclure, je pense qu'on devrait lancer l'ordre de service premier trimestre là. Par contre, cette somme là que nous leur avions octroyée, verra peut-être sa fin avant qu'ils entrent eux-mêmes dans les locaux.
C'est sûr.
Hein, c'est, oui. Ou alors il faudrait que les maçons aient terminé. Oui, c'est déjà le cas pour le docteur Hansberger qui a été la première arrivée et donc qui a effectué le tirage de la totalité donc de cette aide que nous lui avions donnée. Et nous avions voulu justement dans un souci de fidélisation faire un versement, vous vous en souvenez, qui soit dans le temps de manière à se mettre à l'abri d'une mauvaise surprise d'un versement en une seule fois au départ qui bon, ensuite aurait été difficile à récupérer administrativement. Ce n'est pas une cause de l'honnêteté des gens, mais leur engagement.
Et les aides se terminent en juillet et août.
Juillet et août.
Pour les docteurs Gubert et Casigas.
Et la maison ne sera pas ouverte. Ouais, ouais.
Si on a fait les VRD. Je le soumets donc à vos voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Acquisition de biens vacants et 100 mètres. Donc je laisse à M. Petit la longue tâche de ces énumérations.
Je vais vous lire in extenso la première délibération. Et après, je pense que nous proposerons de voter simplement sur le nom de la personne et le, hein, pour aller identifier. Voilà. Monsieur le maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens vacants et sans maître, et notamment leur modification, leur modalité, pardon, d'attribution à la commune. La loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a créé une troisième catégorie de biens vacants et sans maître, les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Dès le printemps 2015, la préfecture de Vaucluse a dû informer la commune de la présence éventuelle de ces types de biens sur le territoire de Bédouin. En 2016, un recensement partiel a été effectué par la préfecture après signalement par le Centre des impôts fonciers. Un seul compte de propriété a été notifié à la commune. Pourtant, la commune, accompagnée par la SAFER PACA, a constaté que plusieurs comptes de propriétaires présentaient tous les critères définis par la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014. En effet, la question est de définir ce qu'est un propriétaire inconnu. La réponse est apportée par la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'application de l'article 147 de la loi 2007-809 du 13 août 2004. Il est précisé que ce qu'est un propriétaire inconnu. La DGFiP considère qu'un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu. Les biens dont le propriétaire est inconnu. Il s'agit de biens immobiliers qui appartiennent à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant, bien appartenu à une personne connue, mais dont la date du décès n'a pas pu être déterminée à l'issue des recherches effectuées par la personne publique et qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne, en particulier les immeubles pouvant être devenus la propriété d'une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive. Dès lors, il est impossible de déterminer l'identité de l'actuel propriétaire de ces biens. Le compte de propriété au nom de M. Isidore Baudin obéit scrupuleusement à cette définition. En effet, nous avons une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, un décès trentenaire impossible à prouver, des biens qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne. Considérant qu'il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens, considérant qu'aucun bien ne devra être sans maître, en particulier au regard des obligations d'entretien qui sont la responsabilité de tout propriétaire diligent. La commune a adopté la même formalisme pour ses différents comptes que pour celui qui lui a été signalé par la préfecture. À partir d'une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître. Monsieur Baudin Isidore, né à une date inconnue, à un lieu inconnu, et dont le dernier domicile connu est 2670 Égalier. Référence cadastrale C784, lieu dit les Hauts-Pâtis, d'une contenance de 950 m², nature de bien bois. Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière d'Avignon 1 n'a relevé aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété. Enfin, eu égard au revenu cadastral dont ce compte de propriété 0,15 €, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas mise en recouvrement. Il est donc en vain de contacter la DGFiP à ce sujet. La commune précise également qu'elle n'a pu déterminer si un éventuel successif avait pris la qualité d'héritier de M. Baudin Isidore. L'arrêté municipal du 14 septembre 2016, visé par la préfecture de Vaucluse le 22 septembre 2016, reprenant toutes les mentions ci-dessus, a été affiché en mairie et au plus près des terrains durant un délai de 6 mois. Il a également été notifié en lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l'expéditeur avec la mention « destination inconnue » à l'adresse. Considérant qu'aucun ayant droit ne s'est manifesté, ce bien immobilier revient à la commune à titre gratuit. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2241-1, vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L1123-1-3 et L1123-4, vu le Code civil et notamment l'article 1317, il est demandé au Conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositifs des articles L1121-1 et 3 et L1123-4 du CGPP, d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ce bien vacant et sans maître.
Très bien. Donc le fait, c'est de s'approprier un terrain de 950 m² ou au parti dont le propriétaire donc,
il n'a plus que son résumé.
Bon, ben, ça fait partie d'une longue liste. C'est le travail donc, que nous avions réalisé par le biais d'une convention SAFER qui était... en quelque sorte, mais je crois qu'on a été les premiers en Vaucluse à mettre en place cette pratique. Bien, je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité? Unanimité? Deuxième fois, première fois. Je vous remercie. Acquisition de biens vacants et sans maître, parcelle F137 au village. Donc, à partir d'une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître. Madame Beynet-Émilie, née à une date inconnue, à un lieu inconnu, et dont le dernier domicile connu est 84 200 Carpentras. Référence cadastrale F137, lieu dit le village, contenance 40 mètres carrés, nature du bien land. Il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositifs des articles L1123-1 et 3 et L1123-4 du CGPP et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ses biens vacants et sans maître.
Très bien. Y a-t-il, je le soumets aux voix à nouveau. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le bien suivant.
Parcelle F83. Alors ça, ce sont les parcelles, les parcelles du village qui sont sous village. C'est la précédente et les deux qui suivent sont les parcelles qui sont sous le parvis de l'église, qui n'ont donc jamais été incorporées depuis que la place de l'église a été faite. À partir de l'extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître. Madame Marceline et Beynet, sans indication de prénom, née à une date inconnue, un lieu inconnu, dont le dernier domicile connu est route du Pont, 84 300 Cavaillon. Référence cadastrale F83, lieu dit le village, contenant 145 mètres carrés, nature du bien sol. Il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 et 3 et L1123-4 du CGPP et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ce bien vacant et sans maître.
Très bien. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie.
Parcelle suivante. Appartenant à M. Fructus Maurice, né à une date inconnue, un lieu inconnu, dont le dernier domicile connu est le village 84 410 Bédouin. Référence cadastrale F79, lieu dit le village, contenant 67 mètres carrés, nature du bien sol. Il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 et 3 et L1123-4 du CGPP et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ce bien vacant et sans maître.
Très bien. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité.
Parcelle appartenant à M. Mayaguet Alexandre, né à une date inconnue, un lieu inconnu et dont le dernier domicile connu est le village 84 410 Bédouin. Référence cadastrale F80, lieu dit le village, contenant 65 mètres carrés, nature du bien sol. Il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 et 3 et L1123-4 du CGPP et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ses biens vacants et sans maître.
Très bien. Je soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité.
Parcelle appartenant à M. Gonnet Michel, né à une date inconnue, en lieu inconnu, dans le dernier domicile connu, et chez M. Gonnet Roger, 84 330 à Caron. Référence cadastrale B224, lieu dit La Fumade, contenance 500 mètres carrés, nature du bien bois. Il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 et 3 et L1124-4 du CGPP. Et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ce bien vacant et sans maître.
Bien, je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. La suivante.
Parcelle appartenant à M. Jean Eugène, né à une date inconnue, un lieu inconnu, et dont le dernier domicile connu est l'Acalade, 13 090 à Aix-en-Provence. Référence cadastrale B163, lieu dit Ravon, contenance 1850 m², nature du bois, nature du bien, pardon, bois. J'en ai sauté une ?
Oui.
Je reviendrai à celle de Madame Jouve. Oui. Donc il est demandé pour cette délibération qui est donc la numéro 13, au conseil municipal, d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 et 3 et L1124-4 du CGPP et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ce bien vacant et sans maître.
Très bien, je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité.
Donc on vient à la délibération numéro 12 concernant la propriété de Madame Jouve, née Gassin, sans indication de prénom, née à une date inconnue et un lieu inconnu, dont le dernier domicile connu est 41 boulevard du Jus de Ballon à Carpentras. Référence cadastrale C873, les Bas-Pâtis, contenance 9700 m², nature du bien bois. Il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 et 3 et L1124-4 du CGPP et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ce bien vacant et sans maître.
Très bien, je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
La suivante. Donc la propriété de M. Le Tilleul, sans indication de prénom, né à une date inconnue en lieu inconnu, dont le dernier domicile est à 84 810 Aubignan. Référence cadastrale C1805, les Hauts-Pâtis, contenant 7015 m², nature du bien bois. Il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 et 3 et L1124-4 du CGPP et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ce bien vacant et sans maître.
Bien, je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité.
Donc là, il s'agit maintenant de biens appartenant en indivision à M. Perreron Gustave, qui habitait au quartier de la Pyramide à Carpentras, et de M. Sorel Albert, qui habitait avenue Frédéric Mistral à Carpentras aussi. Donc là, le compte contient les parcelles C781, les Hauts-Pâtis, C788, les Hauts-Pâtis, C254, les Bruns, pour 1400 m, C259 les Bruns pour 430 m, C260 les Bruns pour 520 m, ces trois biens étant classés en verger, C780 les Hauts-Pâtis pour 1740 m en bois, C816 les Hauts-Pâtis 580 m en vigne. Donc il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 et 3 et 1124-23-4 pardon, du CGPP et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ce bien vacant et sans maître.
Très bien, je le soumets au bois.
Pardon.
Il y a un verger et vigne, il y a un fermier là. Qui...
Non, c'était ce qui était à l'époque inscrit comme culture. Et si, tant que tu ne fais pas de changement de culture, la culture reste inscrite.
C'est une culture.
Oui,
c'est une culture
aussi. Oui, mais si tu ne fais pas de
changement. Vous avez visité toutes ces parcelles?
Oui, je suis allé.
La SAFER, tu as fait?
Non, moi je suis allé seul. Non, la SAFER nous a donné le plan. Et après, moi, je suis allé, on est retourné avec la police, puisqu'on a affiché au droit des propriétés, il y a eu les panneaux avec une affiche dessus, pendant le temps réglementaire.
C'est plus de l'herbe.
Ben, c'est plus de l'herbe.
Oui, c'est un culte. Hein. Bien, je vous propose d'adopter cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La suivante.
Parcelle suivante, donc, qui appartenait à Madame Rouchet-Victorine, donc dont on n'a pas la date de naissance, un lieu inconnu, dans le dernier domicile connu, et 05-230, la Bâtie-Neuve. Le bien se situe, fait en référence cadastrale à D291, au lieu dit Le Bon Dieu, contenance 1680 m², nature du bien terre. Il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 et 3 et L1123-4 du CGPP et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ces biens vacants et sans maître.
Très bien, je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
Dernière acquisition de biens vacants et sans maître, donc. Compte de propriété de M. Guillain Ernest et Guillain Léonie Victorine né Gerbeau. M. Guillain Léonie. Non, il y a un problème. Dans la délibération, il y a un. C'est pas. C'est, c'est Madame Guillen, Léonine et Gerbault, qui est née, effectivement, il y a une coquille, hein, c'est pas s'agissant de Monsieur Guillen, c'est Madame Guillen, Léonie, Victorine et Gerbault. Après recherche auprès d'État civil, a pu déterminer une naissance le 17 août 1886 à Bédouin, et un décès pour elle le 14 avril 1966 à Monteux, soit depuis de plus de 30 ans. Donc pour elle, on aurait pu l'incorporer avec les modalités qu'on a faites il y a une petite année, quand on avait fait aussi... comme on n'avait pas de, par contre, pas de, d'indication pour Ernest Guillen, donc qui n'a pas de référence au cadastre et qui n'a pas dont on n'a rien retrouvé, il a fallu passer par cette disposition. Donc les parcelles sont en B67 l'assaugier est 280 mètres carrés en bois, B74 l'assaugier est 885 mètres carrés en verger et B1673 près du Ravon 1170 mètres carrés en lande. Il est donc demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 et 3 et L1123-4 du CGPP. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ces biens vacants et sans maître.
Très bien. Bon, je vous propose donc à nouveau de voter pour cette acquisition gratuite. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie.
Tout ça représente un peu plus de 4 hectares de terre.
Bien. Délibération numéro 18. Toujours dans les acquisitions policières.
Monsieur le maire expose le projet de division de la parcelle cadastrée, section B1369, appartenant à Madame Catherine Pallas, jouxtant le cimetière des Baux. Il rapporte l'opportunité pour la commune de se porter acquéreur du reliquat de la parcelle divisée en 720 m² afin d'y réaliser l'extension du cimetière et une zone de stationnement. Cette parcelle est classée en zone NAS, donc zone naturelle, pour la plus grande partie, le surplus étant classé en zone UD du PLU. Cette parcelle, pour sa partie NAS, fait l'objet de l'emplacement réservé au PLU numéro 16. Le montant de l'acquisition s'élève à 8 euros le mètre, soit 5 608 euros. Vu le plan de division, vu l'accord de Mme Pallas en date du 20 décembre 2017, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu les crédits ouverts par anticipation au budget primitif 2018, il est demandé au conseil municipal d'acquérir la parcelle cadastrée section B1369 d'une surface de 720 m² au prix de 5 608 euros, de charger Maître Arnoux, notaire à Bédouin, de la rédaction de l'acte et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint à l'urbanisme à signer toute pièce afférente à cette acquisition.
Voilà, c'est une partie de terrain dont on parlait depuis fort longtemps, le cimetière des Baux, dont la voie qui le dessert, c'est donc au sud du cimetière des Baux, c'est-à-dire en se rapprochant de la route. Donc une partie qui nous est dévolue et une partie qui est conservée pour faire un accès au-dessus. Voilà ce qui permettra, mais là aussi, une éventuelle extension du cimetière, puisque là comme ailleurs, on commence à être un petit peu à l'étroit. Bien, je soumets aux voix. Il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. Travaux d'aménagement de la draille de Bélézy. Acquisition policière aussi et cession d'une partie du chemin rural.
Donc, pour asseoir l'assiette définitive du chemin, il est proposé d'acquérir la parcelle H1863 d'une surface de 37 mètres carrés issue du détachement de la parcelle H1439 appartenant à monsieur et madame Michel Berthelot ayant accepté la section à l'euro symbolique et de procéder à un échange sans soute de parcelle avec madame Marie-Hélène Bertrand qui céderait à la commune la parcelle H1865 d'une surface de 6 mètres carrés issue du détachement de la parcelle H1699 et la commune céderait à cette dernière la parcelle H1866 de 6 mètres carrés issue d'une partie du chemin rural. De supporter les frais d'acte de géomètre, vu le plan de division établi par le cabinet C2A en date du 15 janvier, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu les crédits ouverts par anticipation au budget primitif 2018, vu l'avis du domaine en date du 25 janvier 2018, évaluant à 6 euros la valeur vénale de la parcelle nouvellement cadastrée section H numéro 1866, issue d'un détachement du chemin rural, cédé par la commune de Bédouin à Madame Bertrand, il est demandé au conseil municipal d'acquérir la parcelle H1863 pour l'euro symbolique, de procéder à l'échange sans soute des parcelles H1865 et H1866, de charger maître en outre notaire de Bédouin la rédaction des actes et d'autoriser monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer toute pièce afférente à cette opération et à engager les travaux.
Très bien, merci. Bon, pour ceux qui ont des yeux perçants, donc c'est une partie qui nous est cédée par monsieur et madame Berthelot, et en gros, on redresse aussi le chemin en prenant chez madame Ricard et en lui rétrocédant, voilà, on prend ici, on rétrocède ici de manière à le rendre plus accessible. Mais c'est vraiment la marge, c'est 9 mètres carrés. Je remercie les personnes qui ont consenti donc à ces échanges ou sessions. Je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le syndicat d'électrification vauclusien, monsieur Delino Septige, modification de statut.
On y va. Par délibération du 13 décembre 2017, le comité syndical a validé l'adhésion au SEV des communes de Grillon, Richeranchès et Vissage. D'ailleurs, c'est ça. Conformément aux articles L5211-17 et 18 du Code général des collectivités territoriales, il appartient aux collectivités de se prononcer sur la modification statutaire dans un délai de 3 mois à compter de la notification. Vu la notification réceptionnée le 19 décembre 2017, vu les statuts du syndicat d'électrification du Vauclusien, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'adhésion des communes de Grillon, Richeranche et Visan au syndicat d'électrification vauclusien, ainsi qu'à la modification statutaire subséquente.
Oui. Bon, mais c'est assez classique à partir du moment où le périmètre d'un syndicat s'élargit. Donc on demande l'approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Alors, syndicat d'électrification Vauclusien, pour une mise en place de stations de recharge pour les véhicules électriques.
Le CEV, syndicat mixte d'électrification Vauclusien. Autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité a engagé une réflexion sur le développement des nouveaux usages du réseau de distribution de l'électricité et l'opportunité d'un déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le territoire au département, s'appuyant sur l'article 2 de ses statuts qui prévoit que le CEV puisse exercer la compétence déploiement à l'échelle départementale d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le CEV a mené courant 2017 une étude visant à établir à l'échelle départementale un schéma d'implantation des stations de recharge. Le comité syndical du CEV, réuni le 10 février 2017, a validé l'engagement du syndicat dans un projet de déploiement sur le territoire départemental d'un réseau de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ce projet a reçu le soutien de l'État dans le cadre du dispositif d'aide au déploiement d'offres de services de recharge pour véhicules hybrides et électriques en stationnement résidentiel en zone d'activité dans les pôles d'échange multimodaux opérés par l'ADEME au titre du programme des investissements d'avenir. Action, véhicules et transports du futur. Ce projet implique la mise en place de l'organisation par le CEV d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. La commune de Bédouin pourrait bénéficier de cette opération et implanter une station de recharge dans le parking de la résidence Saint-Marcelin en cours de construction. Afin de finaliser le déroulement global de l'opération, la présente convention a pour objet de définir les engagements techniques, administratifs et financiers de chacune des parties pour la réalisation des études et travaux de la mise en œuvre de l'exploitation de l'opération projetée. Voilà. le CEV s'engage à assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération d'ensemble, la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront réalisés, la sélection des prestataires, passation des marchés d'études et des marchés de travaux, l'organisation de la coordination sécurité et protection de la santé, la transmission à la collectivité par validation des études d'exécution, le suivi et contrôle de l'activité des prestataires, la gestion administrative et comptable de l'opération, paiement des marchés d'études et le travaux des exploitations, la réception des ouvrages et suivi de leur fonctionnement, la gestion des contentieux avec les partenaires, les prestataires, pardon, la prise en charge financière de l'investissement dans la limite de 6 000 euros par station comprenant deux bornes, ainsi que la participation à la mise en service, les charges d'exploitation et les dépenses de fourniture d'électricité durant l'année d'installation et les deux exercices suivants. La collectivité s'engage à accorder l'autorisation d'occupation du domaine public au CEV sans redevance, instaurer la gratuité de stationnement pour les véhicules électriques leur permettant de disposer de 2 heures de gratuité sur l'ensemble des emplacements de stationnement non équipés de bornes de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité. Cette clause sera mise en place pendant au minimum 2 ans à compter de la date de mise en service de la station. Prendre en charge les éventuels surcoûts de frais de raccordement, contribuer aux charges d'exploitation à raison de 1 000 euros TTC par an par station. Vu le projet de convention, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à la convention d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, d'autoriser M. le maire à tout et ou tout adjoint faisant fonction à signer la convention et à engager toute démarche permettant l'implantation des bornes de recharge ainsi que tout document relatif au financement de cette installation de toute pièce afférente.
Merci bien pour ce grand moment de solitude. Oui. Donc vous l'avez compris, c'est pour installer des recharges électriques pour des véhicules ou vélos sur le nouveau parking. Donc un marché global a été passé par le syndicat d'électrification Vaucousienne. D'ailleurs, on l'a adopté dernièrement aussi dans le cadre de la COB.
Combien de stations sur on met une ou deux.
On met deux.
Deux, quatre bornes alors.
Non, ça fait deux bornes pour quatre places de stationnement.
Ça fait quatre. Des pattes, quoi, si tu veux. Voilà, ça se dissocie pas. Bien, écoutez, on va s'adapter à une nouvelle demande, puisque ces véhicules-là commencent à se répandre largement. Y a-t-il des questions particulières? Oui.
Pourquoi uniquement là-haut? Pourquoi on n'a pas éclaté en deux points sur le village?
Parce que là-haut, le parking n'est pas fait.
Oui,
donc pour tirer les gaines, c'est beaucoup plus simple et ça coûte moins d'argent parce que ça, c'est à notre charge.
Oui.
Ensuite, le syndicat, il prendra tout à sa charge, c'est-à-dire l'implantation et les bornes. Et tout.
Oui, en fait.
On a réfléchi à ça d'en installer deux, mais bon, commencer par là-haut, parce que le parking est nouveau et je pense que c'est dans le village. Donc les gens ils pourront recharger pendant qu'ils vont faire le marché le lundi ou le samedi après-midi, hein, puisqu'on a le marché le lundi et le samedi après-midi, et rester dans le cœur du village. L'autre parking qu'on avait un peu réfléchi, à lequel on avait réfléchi, c'était le parking de la route de Carpentras, puisqu'il est en terre aussi. Tu vois lequel je te dis, le PM. Bon, là c'était quand même beaucoup plus éloigné du village. Je ne suis pas convaincu que si vous avez autant de succès pour les recharges des voitures. Mais bon, après c'est...
On peut commencer certainement à terme, effectivement, de par la vulgarisation des vélos et autres. Ça va être appelé à se développer, mais c'est quand même onéreux.
Non, mais c'est sur le futur, et puis le syndicat, il prend tout en charge, donc je pense que
c'est éclaté sur deux points au lieu d'en faire un seul point.
Il fallait, parce que là, il te faut 36 KVA quand même, minimum. Et en bas, sur le parking, on ne les avait pas.
Mais là, les bornes, je veux dire,
c'est fermé deux.
C'est 10.
Non, on aurait mis un en haut. Et en bas, comme tu dis, oui. On n'avait pas 36 KVA en bas. Il faut 36 KVA pour une borne.
Ah, pour une borne.
Oui, c'est du bloc. Y a-t-il des... Donc je le soumets au voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 22, service connaissance et cartographie du territoire de la Corbe, avenant à la convention de mise à disposition. Monsieur Petit, merci.
La commune a délibéré en 2015, le 19 février, pour adhérer au service connaissance et cartographie du territoire et a signé une convention de mise à disposition permettant de disposer de prestations ainsi qu'il suit. Normalisation, catalogage et diffusion de données géoréférencées, mise à jour annuelle du plan et de la matrice cadastrale, accès à l'extranet cartographique géocadastre, mise en œuvre de moyens matériels permettant à la commune de bénéficier d'outils de travaux de saisie et de publications spécialisées, numérisation des plans de récollement et des relevés topographiques, numérisation des plans papier, réalisation de cartographies de traitement spécifique du cadastre. L'avenant à la convention concerne le coût de fonctionnement du service qui passe de 28 € à 29,58 € de l'heure en 2017. À titre indicatif, la participation annuelle pour la commune de Bédouin s'élèverait à 678 €. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le projet de convention, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à la convention de mise à disposition partielle du service connaissance et cartographie du territoire de la Corbe modifiée auprès de la commune de Bédouin et d'autoriser monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer la convention et toute pièce afférente.
Très bien, il n'y a pas de questions particulières là-dessus. Je le soumets donc aux voix. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Le 23, donc une modification des statuts de la COVE, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle compétence, donc compétence obligatoire, puisque c'est un terme légal. Et donc c'est une obligation légale. Alors considérant d'une part qu'il convient de transposer dans les statuts de la COVE les dispositions légales entrées en vigueur au 1er janvier 2018, relative à la compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, que vous connaissez sous le nom de GEMAPI. Considérant d'autre part qu'il apparaît opportun de transférer à la communauté d'agglomération les compétences complémentaires définies aux alinéas 11 et 12 de l'article L211-7 du Code de l'environnement, la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins ou un système aquifère correspondant à une unité hydrographique, vu les lois MAPTAM du numéro 2014-58 du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe du numéro 2015-991 du 7 août 2015, vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L5216-5 relatifs aux compétences obligatoires des communautés d'agglomération et la L5211-17 relatifs aux compétences transférées en supplément des précédentes, vu l'article L211-7 du Code de l'environnement, vu les statuts modifiés en conséquence adoptés par délibération du Conseil communautaire de la COVE numéro 206-17 en date du 11 décembre 2017 notifié par son président au maire de la commune, il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification statutaire. Vu le courrier du président de la COVE en date du 8 janvier 2018, il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification des statuts de la communauté d'agglomération Nantou-Contavenessin annexée à la présente délibération. Bien donc, autrement dit, compétence GEMAPI transférée à l'interne. Y a-t-il des questions?
Elle va le faire elle-même la COP ou elle va le transférer à...
Je pense qu'on va revenir effectivement à une délégation, sinon ça suppose de se doter d'un personnel compétent au pouvoir, mais d'un personnel supplémentaire. Par contre, chacun est fortement inquiet de ce transfert, même si ça n'avait pas été transféré, on va avoir des coûts qui pourraient se révéler exorbitants. Et ce ne sont pas d'ailleurs les derniers événements, regardez la télévision, les informations en ce moment, qui vont faire que le niveau de précaution va diminuer, ni que, parallèlement, mais c'est un autre débat, que les frais d'assurance qui nous seront imputés à chacun vont baisser. Donc on est tout de même très inquiet quant au coût à terme, par quelque biais que ce soit, interco ou pas, de cette compétence obligatoire.
Et donc la délégation va se travailler, va se faire...
Oui, en fait, on va revenir avec les mêmes prestataires, parce qu'on va faire une DSLP. Bien. Y a-t-il d'autres questions ? Je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité. La Romanité à Bédouin demande de subvention au titre de la DETR 2018. Madame Leclerc, s'il vous plaît.
Monsieur le maire informe les conseillers municipaux de l'étude d'opportunité et de faisabilité pour la création d'un site d'attractivité touristique et culturelle sur Bédouin, commandé par la COV et réalisé par le cabinet d'études Les Maîtres du Rêve. La commune cherche à conforter son attractivité touristique en ne réduisant sa notoriété à la seule dominante actuelle de la pratique cycliste, mais en faisant exister les facettes et nombreuses ressources du Piémont du Ventoux, territoire d'exception. Agriculture de qualité, tradition potière bimillénaire, art de vivre méditerranéen, activité de pleine nature, patrimoine bâti remarquable, terre pontificale, sont quelques-uns des atouts du territoire à valoriser. Suite à la découverte de la villa gallo-romaine des Bruns en 1995, des fouilles de sauvegarde ont été entreprises jusqu'en 2000. Cette ferme comprenant une exploitation agricole et son habitation incluant ses termes témoigne d'un art de vivre gallo-romain qu'il convient de préserver et de promouvoir. Les vestiges ne parlant pas d'eux-mêmes, la médiation humaine reste nécessaire à l'espace d'interprétation qu'il est proposé de créer in situ. En effet, un dispositif d'appui à une découverte accompagné de l'intérieur de l'enceinte de la villa est envisagé avec un observatoire extérieur d'interprétation depuis le chemin forestier au nord du site. Disposant d'un bâtiment désaffecté, mobilisable, positionné au cœur du village. La municipalité envisage de réhabiliter l'ancienne caserne des pompiers, un espace d'accueil touristique et promotion du territoire, showroom et espace dégustation. Les collections, poteries, pièces archéologiques, peintures, mais aussi vélos de coureurs cyclistes y trouveraient leur place. Le fonctionnement de cet espace serait mutualisé avec la COV, Service Culture et Patrimoine, et le SPL Ventoux Provence, qui est l'OTI maintenant. Le plan de financement prévisionnel hors taxe serait le suivant. Donc, en dépenses, 877 014 euros, et en recettes, avec évidemment la DETR pour 350 000 euros, un autofinancement de la commune à 60,10%, de 527 014 euros serait évidemment le même total, 877 014. Alors, il s'agit de dépenses qui avaient été faites dans un pré-programme des Maîtres du Rêve d'octobre 2016. Monsieur le maire indique que d'autres subventions seront sollicitées, mais que le montage financier reste à affiner. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la circulaire préfectorale du 11 janvier, relative à la dotation d'équipement des territoires ruraux, exercice 2018, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de Monsieur le préfet de Vaucluse une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2017 à hauteur de 350 000 euros, représentant 39,90% du montant prévisionnel de l'opération, de donner pouvoir à Monsieur le maire à signer toute pièce relative au projet et à solliciter toute autre subvention ou participation auprès des financiers, des financeurs institutionnels.
Très bien, merci. Donc, c'est la proposition d'un plan de financement, du moins les premières sollicitations au terme de la DETR. La DETR qui est accordée, vous le savez, par l'État. C'est un peu une compensation justement d'une suppression de la dotation globale de fonctionnement où on souhaite maintenant avoir des projets beaucoup plus lisibles dans une cohérence et suivant une direction qui peut varier d'ailleurs, je n'ose pas dire chaque année, mais sur des périodes assez courtes. Donc là, on est dans la valorisation du patrimoine. Donc on vous propose de demander, donc vous avez vu, 40% d'un autofinancement de projet qui avait été établi par la COB, et puis on verra ensuite au fur et à mesure en fonction de l'attribution et d'autres dossiers que nous déposerons ensuite, la faisabilité du projet en fonction de ce coût indicatif qui sera nécessairement revu, hein, les prix de 2016 n'étant pas nécessairement ceux de 2018.
Sur cette dotation, on peut positionner d'autres projets, ou c'est vraiment fixé sur ce type de projet
Mais chaque année ou sur chaque période, on est sur des orientations particulières.
D'accord.
C'est un peu ce qu'on a souvent fait, donc c'est en fonction, à des moments donnés, pour d'autres subventions.
Il y a on aurait pu positionner d'autres projets dessus, non?
Des bonifications.
C'était plutôt sur la subvention.
Oui.
Et là, globalement, ça s'inscrit dans la réflexion globale de la place des frères Provan, etc. etc.
Oui, mais en fait, vous savez que nous avions remis, ne le prenez pas au pied de la lettre, en gestion, la Villa des Bruns à l'intercommunalité, donc, qui avait d'ailleurs assuré la sécurisation. Et ensuite, donc, nous avions procédé à des réhabilitations avec les entreprises ad hoc. Et donc cette étude avait été faite à ce moment-là, parce qu'on a, quand même la chance d'avoir cette villa gallo-romaine du IIe siècle. C'est vrai que c'est un peu dommage de voir qu'elle n'est pas mieux mise en valeur, mais bon, ensuite c'est aussi une question de coût. Et il semblerait judicieux, et j'en veux pour preuve l'exposition qui avait été faite à une époque à Bédouin, il serait donc judicieux en termes d'attraction pour les personnes qui viennent de l'extérieur, que l'on puisse justement parler aussi de ce patrimoine qui est exceptionnel. Et c'est pour cette raison que c'était intéressant aussi d'avoir un lieu en ville qui permette d'amorcer justement une valorisation de cette Villa des Bruns. Alors après, tout cela restant à définir, et c'est justement là, dans ce programme qu'il va falloir travailler.
Parce que là, voilà. si on additionne un peu entre le projet de la place de Frère Provan et ce projet-là, on n'est pas loin de 2 400 000 euros,
ouais.
À peu près. Voilà. Après, effectivement, préserver le site, faire un attrait touristique dessus, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, après, tout ce qui s'imbrique dedans, de ce fait, notamment l'office de tourisme, etc., etc., je trouve que ça fait cher, in fine, l'opération globale.
Oui. Je vous dis, là, on travaille sur ce coup d'objectif, et ensuite, à nous de voir, parce qu'il est bien évident que si cette DETR n'est pas... On n'a pas non plus une garantie de réussite et d'attribution.
Normalement, c'est quand même... Il y a un taux de transformation
J'en accepte l'augure, mais...
Qui est assez bonne, d'habitude.
Celle-là, elle est haute. Mais de toute façon, tout sera... je veux dire, à un moment donné, il est bien évident que vous dites, on n'a pas trouvé 2 millions et quelques sous les sabots d'un cheval, et on a d'autres priorités.
C'est un petit peu ça qui...
En termes de budget.
Qui affole, c'est les chiffres.
Hein.
Oui. Une opération importante. Moi je ne me rappelle pas l'avoir. On avait voté la destination du. Je me rappelle ça. De cette caserne. Et on avait débattu ou pas en conseil. Je pense pas. Hein. J'ai pas de.
Non, la caserne avait été.
On en a beaucoup parlé, hein, certes, mais on n'avait jamais. Voter la destination touristique, comme là, c'est une destination très
ciblée, quoi.
Très spécifique. Voilà, on n'avait pas. Je pense pas. Hein,
Très spécifique, même pas exclusivement consacré à ce. À cette partie de notre patrimoine. Hein. Donc c'est un ensemble. Il est bien évident qu'on ne peut pas se permettre non plus de constituer, comme certains le suggèrent, un musée de la romanité ex nihilo et sans aide extérieure, ce qui suppose bon, bien sûr d'avoir un fonds. Alors du fonds, on en a un peu au service archéologique, patrimonial à Orange en particulier, ou autre, bon, pour équiper un certain nombre de choses, mais ensuite, il ne s'agit pas simplement de mettre
des vestiges sur, sur une porte sur deux tréteaux. Après, il y a toute une scénographie, une valorisation. L'objectif étant quand même d'attirer et de permettre à une clientèle intéressée par cette partie culturelle-là de, justement, d'apporter plus autre chose que le vélo. Je sais qu'en disant ça, ça fera plaisir à nombre de personnes. Et je veux dire, c'est tout à fait légitime. Donc il y a deux villas du deuxième siècle en Provence. Nous en avons une. Et à ce jour, qui le sait, quoi. Qui le sait, pourquoi pas.
En fait, ce qu'il y a de génial, c'est s'embarquer sur ce chemin-là qui, après, nous amène au projet global, quoi. Moi, faire une demande de subvention pour aller dans le sens, je dirais, de mettre en valeur la Villa des Bruns et tout ce que ça comporte. Je dis OK, sur le fond, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, on met le doigt dans un système global où on va à la fin dire OK, ben, on a 350 000, ben, maintenant il faut aller là-dessus, donc ça veut dire qu'il faut démolir l'office de tourisme, etc. etc. C'est plutôt l'approche.
Mais quoi qu'on fasse dans ce bâtiment, ce bâtiment il est vide et vous avez demandé tout à l'heure si on avait des projets pour des bâtiments qu'on pourrait ou des choses qu'on pourrait préempter. Là, il y en a un de projet. Peut-être il n'arrivera pas au bout,
mais
au moins il y a une destination pour ce bâtiment.
À la limite, aménager pour apporter, je dirais, des éléments dedans consacrés à ce thème-là, ok, mais c'est derrière tout ce que ça engendre. Quand on dit mutualiser avec la COV, SPL vend tout, ça veut dire derrière, c'est un package.
Oui.
Et je ne suis pas.
Mais qui nous sera. On espère qu'il nous sera profitable.
Animé 2,4 millions d'euros, j'espère quand même aussi. Mais je veux dire, au départ, on rentre dans un système où après, on va dire OK, on a l'argent, mais maintenant, il faut y aller. Quoi.
Oui, sinon on a un autre choix, c'est laisser le bâtiment tel qu'il est enfouir les fouilles parce qu'on ne peut pas les entretenir.
Non, c'est pas du tout ça mes propos.
Voilà.
C'est pas du tout ça mes propos.
Ah, mais je l'ai bien compris.
Voilà.
Donc,
c'est pas la peine de me dire que j'ai dit ça, quoi. J'ai pas non, dit
voilà.
tout aussi de ça.
Là,
il faut effectivement qu'il y ait une optimisation des moyens et s'il continue, bon, un office d'un côté, un espace.
Ce soir, on valide quelque part cette orientation-là.
Oui, mais le facteur limitant, ce sera quand même nos ressources. Quoi. Parce que des projets, effectivement, si on met plusieurs fers au feu, ben je vais pas vous l'apprendre, mais à des moments donnés, il est clair qu'on ne peut pas faire quelque chose tout seul, sans aucune aide extérieure. Et ensuite, à des moments donnés, on a une masse, certes, la masse sur laquelle on réfléchit, elle dépasse bien entendu notre capacité d'engagement. Et des projets peuvent être décalé. Prenez l'église. Lors du premier ou deuxième mandat que nous avions fait, on avait réussi à trouver des. Bon, on savait qu'elle était en fort mauvais état, on avait refait la toiture, on avait réussi à décrocher des fonds européens. Je crois que ça faisait 422 000 euros pour l'affection de cette toiture. Bon, on a voulu continuer derrière, on n'a plus pu mobiliser de crédit, mais pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que les orientations des fonds n'étaient plus sur ces bâtiments-là. Donc on a suspendu nos velléités. Et donc maintenant, sachant qu'on a des possibilités, on peut repartir, puisque vous avez vu, on a dû le voter, c'est la dernière fois, vous avez vu qu'on a une aide de la BRAC qui est extrêmement importante, donc, sachant qu'à terme, il faut bien faire quelque chose. Si je prends l'église, par exemple, à un moment donné, il faut bien se résoudre à refaire la toiture, sinon on va tout recevoir sur le nez, et c'est pas pour autant qu'on aura résolu le problème. Donc là, on agit de la même manière, on va dans une direction, on voit ce que donnent les financements le cas échéant, et ensuite ça peut nous aider à définir des priorités, parce que le facteur limitant, c'est notre capacité d'autofinancement.
Justement, la capacité d'autofinancement, si on rajoute les 811 000 euros là, hein, qu'on a voté à une délibération, plus les 527, on est à 1,3 million. On est au-delà de notre capacité d'autofinancement. Sur 2018, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va être. Elle va être autour de 750 ou 800 000 euros, si c'est cet ordre-là. Donc, recours à l'emprunt, nécessairement, si on veut aller au bout de ces projets-là.
Oui, bon, mais ça, sachant aussi oui, qu'on a fait, on a fait des on a fait des engagements globaux, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On met plusieurs fers au feu et fonctions, ou on fait ou on ne fait pas. Et on a tous, toutes les années, quand on fait les choix budgétaires, on a tous des rêves, des velléités, des attirances pour telle ou telle réalisation, puis ensuite, c'est la raison du portefeuille, si vous permettez, qui nous... Et ensuite, ben, pour le financement, après le choix, soit c'est de l'autofinancement, soit après c'est à nous de définir si on veut faire de l'emprunt ou non. Et après, mais on reste quand même dans des investissements raisonnables. Quoi.
Sauf que les DETR, après, il faut que tu aies l'accord, sont fléchés.
C'est le projet tel que défini.
Je veux dire, tu ne pourras pas revenir en arrière.
Les cibler. Oui. Je veux dire, avec de l'argent de la DETR qui nous serait accordée pour la romanité, on ne va pas pouvoir faire la maison de santé pluriprofessionnelle. Oui. Tiens, par exemple, maison de santé pluriprofessionnelle, on a obtenu de la DETR parce que ça faisait partie des objectifs prioritaires du gouvernement et qu'on s'est... Comme c'est un gouffre dedans.
Il faut là, ça définit le pro... Si on a la DETR, c'est... Je veux dire, on est sur rien, après, quelque part, pour moi.
Et oui, mais si... Ouais. Si on reste dans le domaine incantatoire en disant qu'est-ce qu'on va faire, eh bien, on ne fait pas, quoi. Ouais. Et on ne fait jamais.
Moi, j'ai une question là, sur... En relisant la délibération, le projet de délibération, c'est un peu ce qui m'inquiète, c'est le mélange des genres qu'il va y avoir dans cette maison. Donc on voit les collections qui trouveraient leur place. Ton poterie, qui date de 2000 ans, tout le monde le sait, à Bédoué, pièces archéologiques, peinture, pas de problème, mais aussi vélo de cycliste. Il faut savoir si on veut faire une maison du patrimoine pour valoriser notre village, ou si on est obligé de mettre des vélos de partout, dans tout ce qu'on fait. Donc des vélos de cycliste, il y en a sur la route, il y en a dans les magasins, les mettre dans... Si ça doit se faire, l'intitulé c'est quand même la romanité à Bédouin. Alors j'ai pas entendu dire qu'il y ait à l'époque romaine qu'il y ait beaucoup de vélos sur la route. Et je sais peut-être pas tout, mais bon.
Ils avaient quand même là.
Non, c'est un peu le mélange des genres, parce qu'à un moment donné on avait parlé du musée du vélo. Je veux bien, il y en aura peut-être un jour à Bédouin. Ça me gêne un peu. Voilà. C'est dans la délibération, hein. Donc c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein.
Ben, autre.
Voilà. On aurait pu mettre autre. Aussi dégustation de vin, on aurait pu mettre.
Ça y est aussi. Je trouve plus logique que vélo de coureur cycliste, parce que peut-être des vélos qui ne sont pas
de coureur cycliste. Ce serait stupide, je l'ai toujours maintenu, d'en faire une exclusivité, autant ce serait aussi malvenu que de le négliger complètement et de ne pas en parler.
Mais ça n'a pas sa place dans cette maison-là.
Dans la thématique, quoi.
Dans la thématique.
Oui, attendez, je réitère ce que je vous ai dit. Si quelque chose se fait, il n'est pas question, parce qu'on n'en a pas les moyens, et l'Interco donc non plus ne souhaite pas l'assumer, de faire des... Nous, pour ce qui concerne la municipalité et les finances publiques, de faire le bloc vélo, de faire le bloc... produits régionaux, de faire le bloc...
Ça, ce sont des choix, ça.
Humanité ou autre. Ben oui, mais les choix, ils sont quand même conditionnés par les moyens que nous avons.
Ah, mais ça, heureusement d'ailleurs.
Ben oui.
Heureusement d'ailleurs.
Puis les petites expositions, c'est temporaire, généralement. Si on fait une exposition de peinture, ça peut être un peintre, c'est temporaire. Une période, ça peut être, pourquoi pas, quelques vélos anciens. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des choses...
C'est qu'il y a dans la délib, hein, tout simplement.
Il y en a d'autres qui s'échappent. Bien, mais écoutez, merci de ces contributions. Je vous propose de passer au vote. Donc, êtes-vous pour l'approbation donc, de cette recherche de financement? Y a-t-il des oppositions? Une. Y a-t-il des abstentions? Alors, donc, 4, Patrick Rossetti, Alain Constant, Gilles Bernard et Carole Perrin.
Toujours les mêmes. Toujours les mêmes.
Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bon, je vous remercie donc, pour ce vote. Les travaux de restauration de l'église de Bédouin, ben oui, c'est juste derrière. Colette, s'il te plaît.
Oui, alors ben là, c'est la même chose. C'est une recherche de fonds encore. Et là, le projet est plus avancé. Donc, par délibération du 15 décembre 2017, le Conseil départemental de Vaucluse a approuvé le dispositif en faveur du patrimoine et plus particulièrement du soutien au patrimoine inscrit ou classé monument historique. Il est possible de solliciter un soutien complémentaire de 100 000 euros du département de Vaucluse en vue de procéder à la restauration partielle de l'église Saint-Pierre de Bédouin, monument du XVIIIe siècle, inscrit par arrêté du 8 octobre 1984 et qui souffre de désordres substantiels nécessitant d'importants travaux de rénovation. Le plan de financement établi sur la base de l'avant-projet sommaire serait le suivant. Donc on a un montant total de travaux de 1 730 699 euros. En recette, on a donc l'aide de la DRAC qui s'élève à 105 000 euros. C'est toujours pour la première phase. Donc 35%. Le département de Vaucluse qui peut nous donner jusqu'à 100 000 euros. Le département de Vaucluse, la première subvention que nous avions obtenue, 204 660 euros. Pour le patrimoine, toujours du département, 22 740 euros. Et un autofinancement de la commune, 1 298 299. Vous savez que les travaux sont étalés sur 4 ans. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau plan de financement, d'autoriser M. le maire à solliciter auprès de M. le président du conseil départemental une demande de subvention au titre du dispositif de soutien au patrimoine inscrit à hauteur de 100 000 euros, représentant 5,78% du montant prévisionnel des travaux, de donner pouvoir à M. le maire à signer toute pièce relative au projet et à solliciter toute autre subvention ou participation auprès des financeurs institutionnels.
Eh bien, aussi, oui, c'est bien 100 000 euros.
Oui, c'est 100 000.
Une petite erreur de frappe, vous le retrouvez dans le tableau. Oui. Donc voilà, là on est sur notre chantier, si je puis m'exprimer ici, donc qui est là. Un chantier majeur, alors là aussi, mais là, vous voyez, on est justement dans ce que vous soulignez tout à l'heure. Donc là, on a établi, on est beaucoup plus avancé, puisqu'on a pu avoir certains comportements, et donc on en cherche encore en droit. Bien, y a-t-il des questions particulières? Bien. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Les ressources numériques pour la bibliothèque, demande de subvention auprès de la DRAC. Madame Massendès, vous verrez, c'est plus modeste.
Oui.
Pour le faire aussi, c'est très bien.
Je vais quand même le faire. Alors, ça concerne donc les acquisitions de ressources numériques tablettes pour la bibliothèque. Donc, demande de subvention auprès de la DRAC. Monsieur le maire fait part à l'Assemblée qu'au titre de l'équipement numérique des bibliothèques, la DRAC PACA lance un appel à projet pour le financement d'équipements et de services numériques des bibliothèques de la région relevant des collectivités territoriales. Dans ce cadre, la commune va effectuer une demande de subvention pour le renouvellement d'une partie du parc de tablettes tactiles et l'acquisition de ressources numériques pour la bibliothèque municipale. Le plan de financement prévisionnel hors taxe s'établit comme suit. Plan de financement hors taxe ressources numériques, désignation, livres et presse numérique adultes et jeunesse, application adultes et jeunesse 70 euros, le livre des presses 230, livre audio est en téléchargement 50, nous arrivons à 350 euros. L'autofinancement sera de 122,50 et la subvention DRAC à hauteur de 65%. Nous arrivons à 227,50. Ensuite, le plan de financement hors taxe achat de tablette Samsung Galaxy, tablette S3 plus accessoires. Deux tablettes Samsung, 1133,32 €. Un casque audio, 16,76 €. Deux coques anti-choc, 69,50 €. Câble et platine anti-vol universel, 24,80 €. Nous arrivons à 1244,28 €. Autofinancement 435, la subvention de la DRAC toujours à hauteur de 65%, 808,78 €. Alors, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter l'intervention financière de la DRAC à hauteur de 1036,80 28 au titre de l'acquisition d'appareils et ressources numériques pour la bibliothèque municipale, de donner pouvoir à Monsieur le maire à signer toute pièce relative à cette acquisition.
Je vous remercie. Donc, vous voyez, la BRAC intervient tout aussi bien pour la réfection de la toiture de l'église que pour la dotation en équipement numérique. Y a-t-il des questions là-dessus? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Le marché paysan, les modalités d'organisation. Monsieur Ribas.
Oui, alors par délibération numéro 2015-12 du 19 février 2015, le conseil municipal a approuvé la mise en place d'un marché paysan ouvert exclusivement aux producteurs. Ce dernier est organisé du 1er samedi d'avril au dernier samedi de septembre et hors manifestation exceptionnelle de 17h30 à 19h30, place de la République. Le droit de place reste fixé à 5 euros pour chaque emplacement de 4 mètres linéaires au maximum. En raison d'un nombre important de demandes d'emplacement, les inscriptions seront obligatoires et les droits de place devront être acquittés à l'avance auprès du régisseur. L'organisation et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions d'un arrêté municipal, vu le code général des collectivités territoriales. Il est demandé au conseil municipal de maintenir à 5 euros le droit de place par emplacement, d'autoriser Monsieur le maire à définir par arrêté les modalités d'organisation du marché et le contenu du règlement intérieur et afférent, ainsi que de prendre toutes mesures utiles.
Très bien, pour l'étage de la réglementation du marché qui fonctionne très bien, ce marché de producteurs. Voilà, donc il va continuer. Donc, pas de questions particulières là-dessus. Donc, je soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Le CNFPT, dans la convention cadre 2018, vu la loi numéro 84-594 du 1er juillet 1984, vu la loi numéro 2007-209 du 19 février 2007, vu la délibération du conseil d'administration du CNFPT numéro 2017 décembre 07 du 15 mars 2017 relative à la participation financière des collectivités territoriales aux actions de formation et la décision subséquente numéro 2015-décembre-006. En réponse aux besoins de formation de la collectivité, le CNFPT propose des actions de formation qui relèvent de son offre. La loi du 12 juillet 84 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale indique que le CNFPT, dans le troisième alinéa de son article 8, a la possibilité de fixer une participation financière des collectivités au-delà de sa cotisation au CNFPT. Lorsque l'établissement ou la collectivité demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière qui s'ajoute à la cotisation est fixée par voie de convention. Par conséquent, il est proposé d'avoir recours à une convention avec le CNFPT pour certaines actions de formation. Vu le projet de convention et ses annexes financières, vu le plan de formation 2018 pour les agents municipaux, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention entre la commune de Bédouin et le CNFPT et d'autoriser Monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer cette dernière et à engager toute action de formation entrant dans ce cadre. Donc en résumé, nous formons, et c'est très bien, notre personnel, c'est d'ailleurs obligatoire. Toutes les actions ne sont pas prévues dès le départ par le CNFPT, chacun pouvant avoir des besoins spécifiques dans des domaines multiples. Donc soit on reste dans le cadre général, soit on fait une convention, et ce qui n'a rien de bien extraordinaire. Y a-t-il des questions là-dessus ? Les agents ayant d'ailleurs opté pour un plan de formation, puisque, je vous le dis, je vous le redis, c'est une, ça fait partie aussi d'un de nos engagements. Bien, si pas de questions, je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Point numéro 29, modification du tableau des effectifs, création d'emplois permanents et suppression de postes. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu l'organigramme hiérarchique des services municipaux, considérant qu'un agent de bibliothèque remplit les conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un avancement de grade correspondant aux missions exercées, considérant que la directrice de l'accueil de loisirs sans hébergement récemment affectée à l'animation du point information jeunesse a été déclarée lauréate du concours d'adjoint d'animation de première classe, bravo. Considérant le départ par voie de mutation de l'agent responsable du camping municipal et que le poste a été pourvu par un autre grade, sous réserve de l'avis favorable de la commission administrative paritaire et du comité technique s'agissant de la suppression de poste, il est demandé au conseil municipal de créer un poste d'adjoint du patrimoine principal de première classe à temps complet et de supprimer concomitamment, une fois l'agent nommé sur le grade, le poste d'adjoint du patrimoine principal de deuxième classe à temps complet rendu vacant. De créer un poste d'adjoint d'animation de première classe à temps complet et de supprimer concomitamment, une fois l'agent nommé sur le grade, le poste d'adjoint d'animation à temps complet rendu vacant. De supprimer le poste suivant d'opérateur principal des APS à temps complet, qui était le poste occupé par M. Bruno Andrieux, de modifier le tableau théorique des effectifs annexés à la présente délibération, de dire que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget principal 2018. Donc c'est un toilettage, donc on crée, on supprime, et donc on crée en fonction, mais soit de... d'augmentation de grades qui sont statutaires, soit, je le souligne et je l'en félicite, d'une réussite à un concours administratif. Et y a-t-il des questions particulières ? Oui.
On a voté effectivement la création d'un poste lors du dernier conseil municipal. La piscine, il y arrivait deux personnes ?
Oui. Alors, la piscine, deux personnes sont arrivées. On m'a parlé après. Donc nous avions, on avait un agent donc, détaché des services techniques qui va réintégrer les services techniques, ce qui signifie que le poste, la charge de travail, la masse de travail de toute façon reste la même, mais qu'elle sera effectuée par un personnel qui sera spécifiquement affecté, ce qui nous évitera d'avoir à faire, comme on le fait en fin d'année, les régularisations pour les affectations, par exemple, des charges de salaire du personnel qui travaille à la piscine, qui est un budget à part, alors qu'il est considéré comme personnel municipal. Voilà. L'argent reste le même, ce sera simplement un toilettage. Allez, je vais vous faire voter d'abord la 29. Voilà. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions, je vous remercie. Et on passe donc au 30, donc modification du tableau des effectifs, où on trouve la réponse à votre question. Création d'emplois non permanents. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 3, paragraphe 1, ouvrant la possibilité de recruter des agents non titulaires de droit public en raison d'un accroissement temporaire d'activité, considérant d'une part le besoin occasionnel au sein des équipements municipaux de la Pinède, camping, piscine, tennis, considérant que deux agents ont sollicité leur disponibilité au sein du pôle EJE pour une durée déterminée et qu'il convient de couvrir les besoins pour le service de restauration scolaire et l'entretien des locaux, ou l'exposé de Monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal donc, d'approuver la création d'un poste d'adjoint technique non titulaire à temps complet pour le budget annexe camping-piscine, celui dont on parlait, d'approuver la création d'un poste d'adjoint technique non titulaire à temps complet pour le service de la restauration scolaire, ainsi qu'un poste d'adjoint technique non titulaire et à temps non complet, 25 heures hebdomadaires, pour l'entretien des locaux. De dire que les crédits sont inscrits au chapitre 012 des budgets concernés. Donc, c'est-à-dire qu'on repyramide les... En fait, on crée les postes là où est le besoin, les uns justement à cause de cette ce glissement entre le service technique et la piscine, et l'autre considérant que deux agents qui assuraient la cuisine, les deux jeunes bédouinés qui assuraient la cuisine, ont demandé pour des raisons personnelles une mise en disponibilité pour une certaine date, donc on les remplace, mais par du personnel non titulaire, et pour l'un à temps non complet.
Il y a des questions.
Bien. Donc je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Vous avez ensuite, donc dans les questions diverses, l'état des décisions du maire, donc que je vous communique régulièrement. Comme vous le voyez, un grand nombre de déclarations d'intention d'aliénés, essentiellement. Donc, ce qui prouve que le marché reste actif. Nous avons quelques marchés publics, des conventions d'honoraires, rien de très particulier. Ça vous donne quand même une idée de toutes les réalisations qui passent entre les mains des services. Voilà. Personne n'en a d'autre. Bien, pour ce qui me concerne, j'ai terminé ce conseil municipal. Y a-t-il des questions particulières?
Questions diverses. Moi, je voudrais juste faire un point peut-être sur l'état des projets. Je pense à l'espoir, je pense à la maison de santé. Donc, tu nous en as un peu parlé tout à l'heure, mais oui. C'est peut-être bien de faire un peu un état. Deuxième, je l'ai dit, après tu verras. La maison des jeunes travaille sur un projet de. J'ai dû avoir écho de cerise numérique avec un projet intéressant sur de la récupération de matériel numérique, récupération d'émantèlement et coulevant. Ils pourront pas réaliser ce projet-là, qui peut être créateur d'un ou deux emplois à terme, sur les locaux actuels qu'ils occupent, les locaux là-bas. Donc est-ce qu'on envisage, éventuellement, une recherche d'espace, de locaux disponibles pour pouvoir installer ce projet-là sur la commune?
Oui. Je me suis averti à peu près depuis une semaine par un mail relativement succès, que certains d'entre vous ont dû recevoir, donc effectivement, mais je suis toujours
le
même.
Tous les l'ont reçu. Hein.
Et tous les, voilà, tous les, je dis que certains ont dû recevoir aussi, d'autres ont dû recevoir. Mais on a besoin quand même de code d'exploitation.
Bien sûr, mais c'est qu'un projet pour le moment, ils y travaillent dessus, donc je pense que. Mais la commune sera sollicitée sur au moins sur ces questions-là. Quelle sera cette locaux de...
Certainement des locaux et de participation. J'ai vu ben là aussi qu'il y avait des fonds qui avaient été demandés. Peut-être une attaque de. Une attaque de l'autre. Ok, bien, on verra. L'état des lieux des différents chantiers, qu'est-ce que. Là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être un peu précoce.
Il y a le maîtrise, il y a marché de maîtrise d'œuvre là pour la salle des sports.
Alors, la salle des sports, donc, Dominique, tu connais.
Donc effectivement, comme on a décidé de changer l'emplacement de la salle des sports, qu'elle soit plus route de Crillon, mais à côté du stade, pour rassembler tout le sport. Du coup, on a arrêté la maîtrise d'œuvre précédente, reconsulté pour une nouvelle maîtrise d'œuvre, et vous voyez là l'attribution de la nouvelle maîtrise d'œuvre, qui est repartie sur une étude. Alors, le contenu est le même, puisque le programme concernant la salle de sport n'a pas changé. Par contre, l'implication pour pouvoir faire un agrandissement futur, ça rentre dans le nouveau programme. Je m'explique bien, non? Le contenu est le même, avec possibilité d'agrandir dans le futur.
Oui, c'est d'anticiper l'avenir, quoi. C'est de laisser des possibilités d'agrandissement, et de mutualisation, d'investir dans le stade.
Voilà. Donc à mon avis, ça va changer principalement sur la structure et non pas sur le contenu.
Donc c'est une piste qui nous avait été fournie par l'opposition, je tiens à le dire, puisqu'on faisait des grands signes avec Calais. Voilà, c'est vrai que ce terrain lequel dont nous parlons, route de Crillon, présente l'avantage, certes, d'être très proche des usagers. Néanmoins, se trouvant en centre-ville, ben, nécessairement, de taille assez, en centre-ville, si vous permettez, quoi. Enfin, se trouvant donc entouré de bâtiments, il n'y a pas des possibilités d'agrandissement qui pourraient, dans le futur, s'avérer intéressantes. Sachant, mais bien entendu, qu'on n'a pas les moyens pour le moment de mettre, de faire le magnifique gymnase dont tout le monde rêve, qui coûte 2,5 millions. Bon, ça, c'est même pas la peine d'en parler. Mais sachant par contre que cette salle de sport qui peut intéresser un certain nombre d'associations pour certains usages, ben, peut. A reçu d'ailleurs, là aussi, on a fait une recherche de subvention assez. Couronné de succès, on peut dire, auprès de la COP, où justement sur le fait que nous sommes un village qui draine les villages voisins, tels Flassan, Crillon et autres, donc on a pu bénéficier d'une bonification. Et c'est un peu la suite du travail qu'on mène pour la maison de santé pluriprofessionnelle avec une coordination, une complémentarité avec ces communes. Et donc là, on a pu obtenir. On est à 200 000 euros, Raphaël. Hein. 200 000 euros, donc en rajoutant un peu, on peut faire quelque chose, mais on tient à le prévoir de façon à ce que ce soit extensible, bon, ce qui mettra peut-être en péril d'autres structures qui existent au stade, et on a aussi cette proximité là-bas, qui est peut-être intéressante.
Prévoir donc le déplacement du local de MSAP, du local jeune actuel, non?
Oui, mais là, ça ce sera pour la phase 2.
Ce sera pour la phase 2.
Eh oui, voilà. Très bien, voilà. Donc, on pourra, mais effectivement, on pourra un état des lieux des différents projets. C'est vrai qu'on est toujours un peu contraint au moment des budgets parce qu'il nous manque toujours les quelques pistes ou les quelques attributions qui peuvent être à des moments donnés intéressantes.
Bien, mais j'ai une question. Oui, pardon. J'en ai toujours une, la question diverse. Il y a certaines communes qui prennent des délibérations pour interdire les compteurs Linky sur leur territoire. Ouais. Donc, nous, opposition ou minorité, ça dépend des jours, nous pensons que ça serait une bonne chose que la commune de Bédouin le fasse, parce que ces compteurs sont très controversés, y compris sur la santé, sur les 40 millions de compteurs qu'il va falloir recycler, dont certaines communes ont pris des délibérations dans ce sens, et nous demandons à ce que la commune de Bédouin fasse de même. À toi de voir.
C'est à moi de voir. Vous pensez bien que j'ai été saisi il y a bien longtemps de cette affaire-là. Le résultat global, c'est que ces délibérations sont considérées comme illégales. En ce sens.
Non, pas tout le temps.
En ce sens où il n'est pas du pouvoir des communes que d'intervenir dans ce domaine-là. Je m'étais renseigné donc auprès de la préfecture, bien entendu. Alors c'est vrai que c'est assez préoccupant.
Même si c'est symbolique.
C'est compteur.
Mais même si les délibérations sont illégales, il y a quand même la défense des administrés.
Il y a beaucoup de communes qui l'ont fait,
qui l'ont fait, mais qui retournent. On a le même problème par rapport à des arrêtés loups. J'ai suivi la question d'un peu près, comme tu disais tout à l'heure, elle se fait renvoyer dans nos 22 à chaque fois. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on veut...
Ben, on ne veut pas de compteur Linky pour l'instant.
On ne veut pas de compteur Linky. On va se faire que tu sois obligé de pédaler.
Non, mais bon, après il faut toi qui décides. Hein.
Il faut être réaliste. Enfin, de toute façon, on ne va pas le décider ce soir, mais il faut être réaliste. À un moment donné, le rôle d'un élu, c'est quoi ? Est-ce que c'est de jeter de la poudre aux yeux, de dire, vous voyez, messieurs, dames, on s'occupe de vous, on prend en compte vos préoccupations et d'aller dans le mur ? Ou est-ce qu'on épargne un peu le travail de secrétariat à notre personnel, tout en sachant que certaines choses sont irréversibles. La question de fond, c'est celle-là.
Il y a 36 000 communes en France. S'il y en avait 30 000 qui prennent cette délibe, je pense qu'il y aurait des choses à bouger. Il ne faut pas toujours se réfugier sur le... Il faut avancer. Ce n'est pas parce qu'au départ, on est tout seul. Enfin, Dans ce cas-là, il y a bon nombre de communes qui l'ont fait. Après, c'est le nombre. Hein. Oui. C'est toujours pareil. Pour avoir un résultat, c'est le nombre. Et Bédouin fait partie des 36 000 communes de France. Et ses 3 000 habitants aussi. Mmh. Voilà, c'est tout. Après,
oui. On peut le réexaminer, mais je suis très pessimiste. À mon sens, excusez-moi, mais je vais terminer sur une mauvaise note alors que ça se passait bien. Je veux dire, c'est un peu de la démagogie, quoi.
Ah ben bien sûr. Ah ben ça c'est la meilleure. Et oui, tu termines sur une mauvaise note. Effectivement. Oui. voilà, c'est bon. La séance est levée.
Il ne faut pas prendre les citoyens comme pour des gogos. Moi je veux bien faire plaisir aux gens. Ouais.
Il ne faut pas prendre les citoyens pour des gogos. On va rester sur ça.
Et oui.
On va rester sur ça. Non mais bon.
Messieurs, dames, je ne vous prends pas pour des gogos. Je vous remercie de votre participation et je lève la séance.
S'agit-il d'augmenter la capacité de l'accueil de la restauration, sachant que nous avons 7 lieux de restauration dans l'alignement sur un peu moins de 100 mètres. Dans ce quartier, il y a des gens qui vivent là toute l'année, qui ont besoin de se déplacer et qui sont fortement gênés dans leurs déplacements tous les lundis, mais ça c'est général pour le village, lors de fêtes ponctuelles comme les fêtes de la musique ou certaines du dernier, mais aussi pendant toute la saison touristique en raison de l'accumulation de véhicules qui sont garés n'importe où et de vélos qui occupent toutes les rues adjacentes, nous n'avons pas de possibilité de circuler de façon normale. Je me demande si ce souci a été pris en compte et si dans l'élaboration du projet, les riverains pourraient être intégrés dans la discussion, dans le débat, et voir un peu si leurs préoccupations pourraient être prises en compte.
J'ai reçu un courrier dans ce sens il y a quelques semaines ou quelques mois. À ce jour, il est bien évident, je ne me défile pas, à ce jour, on a passé un conseil municipal à la convention pour examen des réseaux qui sont sous la place, voilà, qui sont en principe tous à changer parce que ça fait partie des vieilles fautes de la commune. Si on a eu une esquisse d'ensemble sur le projet, on est encore loin de l'affiner, mais bien entendu, on fera une présentation là-dessus et les riverains ils seront convoqués, convoqués. Ce qui est ennuyeux d'une manière générale, c'est vrai, c'est qu'on s'est privé de la plupart des garages qui donnent directement sur la place et sur les courses. Et que bon, on a eu la chance de pouvoir acheter quelques terrains, mais ce qui extériorise un peu plus les véhicules par rapport aux habitants. Et après, l'embellissement, bien entendu, le fait de faire en sorte que les commerces qui existent puissent continuer, bien entendu, leur activité, mais peut-être avec une optimisation du terrain. Mais il est vrai qu'on a la route du marché, la rue du marché au raisin, finalement, qui ne sert à rien ni à personne. Et donc, puisque les véhicules ne peuvent pas y passer, les terrasses ne peuvent pas s'y installer, déjà en réagençant tout ceci, on peut avoir des... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle...
Il y a deux avenues publiques qui débouchent directement et une avenue privée. On n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. C'est le problème.
Oui, mais c'est bien ce que je veux dire. On peut très bien déplacer une bande de roulement de l'autre côté des arbres, parce que là, personne n'y va volontiers. Quand vous y passez, les riverains, mais vous vous dites toujours, il peut y avoir un serveur qui sort, il peut y avoir un client qui traverse ou quoi que ce soit, si on peut, on l'évite. Et de la même manière, c'est un espace là, qui est un no man's land non sécurisé. Ça, c'est une partie de l'approche. C'est certain qu'il n'est pas question de supprimer les terrasses, mais si elles trouvaient leur place, par exemple, devant leur façade directement, eh bien, on regagnerait tout l'espace qu'elles occupent actuellement. Et tout ça, ça fait l'objet de... Ça va faire l'objet de brassage. Mais pour le moment, on en est au réseau.
Merci.
Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Fin de séance, 20h50.